Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Wi-Fi Café Ambition. Mon nom à moi, c'est Josiane et je suis en compagnie de l'excellent co-animateur Simon Rivet.
Bonjour, bonjour Simon! Bonjour, content d'être ici aujourd'hui.
Oui, dans les dernières semaines, il s'en est-tu passé des choses dans les médias?
Genre, énormément.
Énormément, surtout au niveau des États-Unis avec la mort de George Floyd, puis tout ce qui arrive, les Black Lives Matter, puis toute cette communauté-là, ce regroupement-là, et tout. C'est quand même un vent de changement, on parle plus
le
de COVID.
Le déconfinement.
Ou le déconfinement en même temps, fait que là, c'est comme un petit peu fou. On est dans une autre réalité. Moi, je suis pas prête à sortir de chez nous. Je sais pas pour toi, tu sais.
Genre, non, pour moi, qu'est-ce qui me fait encore plus peur que le corona, c'est la manière dont les gens agissent socialement, les nouvelles conventions sociales, tout. Qu'est-ce qui a changé maintenant qu'on est en train de réouvrir? J'ai une forte envie de sortir, mais j'ai comme un peu peur d'interagir parce que pendant qu'on était au cœur du corona, je me suis fait brasser pas mal juste à aller à l'épicerie ou des affaires hyper simples. L'attitude des gens était pas où est-ce que j'avais envie d'interagir avec eux. Et puis, c'est quelque chose que je suis pas sûr.
Oui.
Par exemple.
Ça, tu sais, on a trouvé beaucoup de moyens durant le COVID d'acheter local et aussi de se faire pas mal tout livrer à la maison, ne rien manquer. Puis, tu sais, ça continue. Puis, je pense qu'on continue encore de se faire livrer beaucoup de choses.
Mais c'est génial.
C'est des habitudes que les gens vont garder encore longtemps.
J'en ai aucun doute. Justement, il y a beaucoup de restaurants qui se sont mis à livrer sur Uber Eats et puis j'ai entendu dire qu'ils ont arrêté de livrer sur Uber Eats.
Parlant de ça, je pense que c'est Dominique Brown de Chocolat Favori qui a justement parlé de ça, je me souviens. Et puis, tu sais, il disait que, tu sais, justement, puis ça me fait penser aussi à nos clients qui viennent en marketing, je veux essayer. Non, pour aller de l'avant dans l'innovation, il faut que tu te lances à temps plein. Faut que tu te commets à t'engager. Il faut que tu t'engages justement dans ton marketing ou justement dans cette ubérisation-là. Oui, c'est sûr qu'il y a des frais, il y a des ci, il y a des ça, mais c'est des nouvelles infrastructures que sur le long terme, tu vas être gagnant.
C'est sûr qu'ils vont
venir. Parce que là, présentement...
Dans 3 ans d'ici, ils vont tous regretter d'avoir quitté, de pas avoir venir. C'est le nouveau statu quo. C'est normal de faire ça.
Exactement. Puis pas juste ça. Tu sais, on regarde les restaurants, là. Ils sont à 50% de leur capacité parce qu'il faut qu'ils mettent tout à 2 mètres de distance, des réaménagements et tout. Tu sais, là, ça donne pas le goût, là. Tu sais, faut que tu prennes une réservation, faut que tu te prennes d'avance. Les gyms, Econo Fitness disaient qu'il fallait prendre ce rendez-vous.
Oui. Pour la restauration, j'ai trouvé la citation de Dominique Brown.
Oh, parfait.
Depuis le déconfinement de la restauration, des restaurateurs semblent avoir abandonné toutes les belles idées de livraison qu'on avait développées. On livrait à votre plus grand bonheur. On ne livre plus parce que, point. Dommage. Pour ma part, ça me donne accès à des restos où je n'irai probablement pas ou probablement moins souvent. Distance, le bain des enfants, la logistique pour y aller. La livraison n'a jamais remplacé pour moi une visite dans un restaurant. C'est deux besoins différents. Si j'ai décidé que je me faisais livrer et que tu n'offres pas, ben tu viens seulement de me perdre à un concurrent. Étrange raisonnement. La réinvention, ce n'est pas temporaire.
C'est exactement. Puis les gens, pareil pour le marketing, là, c'est pas temporaire. C'est un engagement que tu fais envers tes clients.
Faut que ce soit constant.
Et exactement. Faut que tu sois actif. Tu sais, genre, justement, la citation aujourd'hui de notre équipe de création sur le Instagram de Néo Media, c'était Get active. Donc, soyez actif, tu sais. Et puis.
Surtout constant. N'importe qui est capable d'arriver, d'être actif. Regarde, j'ai fait une publication. Mais très rares sont les gens qui vont dire j'ai fait une publication à chaque jour depuis les 5 dernières années, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit à travers le email marketing qu'on va parler un peu plus tard aujourd'hui.
Oui, avec un invité vraiment spécial.
Oh oui. Et puis, que ce soit n'importe où ou dans n'importe quoi, c'est la constance qui va payer. Et peu importe le type de marketing que vous faites ou n'importe quel type d'entreprise que vous lancez, si vous ne faites qu'essayer, ça marchera pas.
Exactement.
Nous, c'est qu'est-ce qu'on dit justement à nos clients qui disent « Je veux juste essayer. On va essayer 2 semaines, 1 mois. » On est comme « Man, donne-toi au moins 3-6 mois. »
Non, mais même à ça, moi, je les prends plus, ces clients-là, qui vont essayer, parce que c'est aussi ceux qui micromanagent. Puis ça, j'en veux pas. Tu sais, genre, je veux essayer ou qui est pas convaincu encore qu'avoir un e-com Shopify, comme c'est arrivé récemment, puis là, que tu magasines à gauche puis à droite, oui, mais lui, il me dit ci, puis là, ça, puis il me promis ci. Là, regarde, c'est parce que t'es pas branché.
Non, faut que t'aies une discussion transparente, puis il faut que t'aies une idée claire, que les idées soient alignées. C'est hyper important. Et puis, tu sais, de toute façon, c'est même pas une question est-ce que le web ou pas. J'imagine, j'ai pas regardé les statistiques derrière moi, mais je suis à peu près sûr que les ventes du web, avec la folle croissance d'Amazon, entre autres, ont clairement dépassé les ventes au détail dans le monde.
Ben, nous, on l'a vu avec certains de nos clients on va faire des études de cas prochainement sur le site de Neomédia avec l'équipe de création de contenu. Et puis, tu sais, justement, là, c'est
des entreprises fou, là, que tu t'attendrais jamais à voir en ligne, que tu te dis ça marchera pas en ligne, comme des épiceries, des boulangeries, des charcuteries. Des entreprises que tu te dis...
Même des psychologues.
Oui, des psychologues, c'est vrai. Des entreprises que tu te dis, on a besoin de cette proximité-là, on a besoin que ce soit pour vrai, et puis que finalement, ils vont sur le web, et puis qu'ils ont un succès énorme, explosif, gigantesque.
Puis jusqu'à là, quelques semaines, tu sais, je pense à IGA, parce qu'on commande notre épicerie souvent de chez IGA. C'était difficile d'aller les commander chez IGA, fait qu'on s'est trouvé plein de moyens alternatifs. Et voilà.
C'est une des meilleures choses qui nous est arrivée, sérieusement. On a tellement fait des belles découvertes.
Oui, et puis on continue de les encourager. Oui. Tu sais, mon café, on l'avait reçu au podcast. Maintenant, c'est signé Coffee Queen. Je le change pas.
Tina Napoli, Coffee Queen.
Il est bon même en filtre. Tu sais, il est vraiment bon. Oui. Tu sais, genre que je capote, tu sais. Ensuite de ça, Simon Labarre, le laitier, qui a des poitrines de poulet.
On dit laitier, mais en réalité, on devrait dire micro-épicier, selon
moi. Oui, quasiment, mais c'est parce qu'à la base, c'était un laitier, puis il s'est adapté, justement, à offrir des paniers de fruits.
Il s'est adapté en micro-épicier. C'est moi, exactement. J'aime ça comme ça. Exactement. Parce qu'on dit, quand on dit laitier, les gens comprennent pas. Ils pensent qu'ils nous livrent des pintes de lait, mais là, c'est comme une micro-épicerie en ligne.
Ben, ça peut être du fromage aussi, le laitier, là, des œufs. Ça, donc, tu sais, tout ce qui est œuf, poulet, maintenant, on le commande direct de lui. Puis en plus, ça vient déjà d'une ferme locale.
Et la qualité des aliments, puis ça ne nous coûte pas plus cher, même moins cher qu'à l'épicerie. Googlez son nom, Simon Labarre, c'est génial.
Oui, exactement. C'est génial. Puis, tu sais, on a encouragé aussi François Lambert qu'on a reçu au podcast.
Ah oui.
Même si c'était par le biais de ses partenaires, puis sur d'autres plateformes que la sienne. Ensuite de ça...
On a commandé aussi beaucoup de sa propre plateforme aussi.
Oui, ça c'était plus avant COVID.
Mais on a continué.
On a continué aussi, oui. Mais tu sais, tous nos clients aussi, on a commandé chez nos clients dans l'alimentaire, dont la boulangerie Aroma à Montréal, qui ont des produits exceptionnels.
Oh my God!
Si vous voulez acheter des bons gâteaux...
Leur gâteau au citron.
Ah, oh, le cake au citron,
oui. Oui, parlant de gâteau, un autre qui s'est adapté avec Uber Eats, qu'on a aidé...
Oui, on a aidé Cake-Toi.
Cake-Toi, pour les gâteaux, ils sont géniaux. Mm-hmm. Ils sont géniaux sur la rive sud, vraiment.
Faudrait que je réserve pour le gâteau de fête de Daphné aussi.
Super, génial. Fait qu'aujourd'hui...
Oui, aujourd'hui...
On parle email marketing.
Exactement, puis tu sais, justement... il y a des séries de courriels aussi, puis j'aimerais ça que notre spécialiste du email marketing, donc c'est une email marketeuse, donc je vais te laisser l'introduire, okay, Simon.
Super, la personne qui est sur le podcast aujourd'hui, c'est une experte en email marketing qui est littéralement reconnue mondialement. Derrière moi, on l'a vu à gauche, à droite, entre les États-Unis, le Canada et le reste du monde, en Californie entre autres. C'est quelqu'un qui a un énorme background académique, mais aussi un énorme background dans la vraie vie avec, qui était super impliqué au niveau d'une startup ici à Montréal, au niveau du email marketing. C'est quelqu'un qui a complètement dédié sa carrière autour d'email marketing. Puis l'email marketing, c'est quand même quelque chose qui est très, je dirais, une forme de marketing que je trouve très personnelle dans le sens où que tu rentres chez les gens. Tu fais pas juste passer avec un panneau publicitaire devant chez eux, t'as un pied dans la porte. Et puis, je trouve que dans les quelques derniers mois, c'est un médium qui a été peut-être un peu sous-estimé. C'est un médium qui rapporte, et puis c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, probablement le meilleur retour sur investissement comme marketing. Et puis, la plupart des entreprises ne le font pas bien. on parlait de se réinventer et puis de constamment évoluer dans nos manières de faire, ben c'est qu'est-ce que la personne qui va nous parler aujourd'hui va nous parler. La personne qui va nous parler aujourd'hui, c'est aussi une des personnes les plus transparentes et intègres que je puisse connaître. C'est quelqu'un qui a travaillé avec des mandats avec nous sur des mandats chez Néomédia, agence marketing web. C'est une personne qui est énormément compétente, transparente, intègre, mais aussi qui est ceinture noire en karaté, entre autres, qui parle plusieurs langages, et puis qui a, encore là, comme je l'ai dit au début, complètement dédié sa carrière au email marketing de long en large. Donc, j'introduis sur le podcast, maintenant, là, Yana Tori Aspraki. Yana Tori, Yana, bienvenue sur le podcast Wi-Fi Café Ambition. Hey, je t'ai fait un intro de 2 minutes, là, j'ai dit, je
scrap, là. Je me sens très privilégiée, là. Je vais vous engager à faire toutes mes introductions quand je vais parler.
Je parle.
Ça, c'était
lui. J'adore ça.
Simon, pour introduire les gens, il est écœurant.
Oui, non, j'adore faire ça. Ça
là,
vient,
sans vous voir, là, la voix là, est parfaite. Là. une vraie voix de radio.
Mais moi, j'ai hâte de te voir pour te faire un câlin.
Ah oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne. Oui. Là.
Donc... Oui, email marketing, donc, tu sais, les gens qui pensent que, justement, le marketing web, c'est facile, puis tout ça, puis que ça prend pas 10 personnes, ça prend pas une équipe, email marketer, c'est une profession en soi. Parle-nous un petit peu comment t'as commencé, tu sais, justement, c'est cette passion-là du email marketing, t'es venu.
Comment t'es arrivé dans l'email marketing? C'est tombé où? Pourquoi pas, exemple, le développement web, pourquoi pas le développement de software, pourquoi pas un paquet d'autres trucs, pourquoi pas les Facebook Ads? Qu'est-ce qui a fait que toi, t'es tombé dans l'email marketing puis que t'as dit comme moi, ça m'intéresse, je vais me bâtir une expertise là-dedans? Ça vient d'où?
Bon, voilà plusieurs années, j'avais ouvert une agence à Montréal et j'offrais tout. Moi, je suis ingénieure, donc je faisais des sites web, j'avais des gens qui travaillaient avec moi qui faisaient le côté plus marketing, la photographie, des vidéos et tout. Et je suis tombée sur honnêtement, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, un emploi qui était chez Kickmail. C'était un emploi, le nom du poste était expert de produits, product expert, et c'était comme un petit mix entre aider les clients et faire du support, évidemment, mais avec un côté un peu plus technique. Là, je me suis dit, pourquoi pas aller apprendre un peu plus là-dessus. C'est pas un service que j'offrais, évidemment. Là, on s'entend, tout le monde est capable d'utiliser MailChimp, là, écrire, envoyer des campagnes. Je me suis dit, pourquoi pas embarquer là-dedans? C'est une chose que tu peux pas vraiment apprendre à l'école. Il y a des cours en ligne, mais c'est de l'information un peu générale. Là. On s'entend, il faut avoir une belle photo, une belle ligne de sujet, là, on se comprend, là, on le sait bien. Ouais. là, je me suis dit, je vais rentrer dedans, savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et en travaillant là-bas, évidemment, c'est une superbe entreprise, des gens très accueillants, très intelligents, très travaillants, évidemment aussi. Et j'étais assise très proche du directeur de la livrabilité. Et pour moi, ça m'a vraiment... c'est super intéressant. Je me sentais que cette personne-là, là, c'est quelqu'un qui travaille au FBI, de l'Internet, côté email. Et j'ai commencé à réaliser que son poste, c'était vraiment un poste très unique. C'est quelque chose qu'il a dû apprendre lui-même en travaillant là-dedans. Et je me suis dit un jour, moi, je vais le remplacer. Je vais être lui un jour. Donc, j'ai commencé à lui poser plein de questions, sûrement il me trouvait un peu annoying. J'arrête pas de demander des questions, je voulais tout faire, je voulais tout comprendre. Et quand j'ai réalisé moi-même qu'est-ce que le courriel, tout traduit en français dans ma tête vite, là, ça, c'est drôle.
C'est correct.
Le côté marketing.
Les anglicismes sont percés.
Oh, oui, c'est ça, mais
oh, le courriel. Oui, t'as le droit aux anglicismes, il n'y a pas de problème. On parle en franglais, nous aussi, puis tu sais, je veux dire, on comprend, là, tu parles quoi, genre 5-6 langages, là, les langages doivent se bousculer.
4, ça c'est, là.
4, ok, c'est bon. C'est bon.
Français, puis, grec, espagnol, anglais.
Exactement, c'est ça. Tout diplômé, maman, là, travaillait fort pour que je fasse tout bien correctement.
Nice.
Donc, c'est ça, quand j'ai vu de mes propres yeux l'argent que les gens faisaient quand ils faisaient le côté courriel super bien, ça faisait, j'ai capoté honnêtement, je faisais des choses pour mes propres clients de mon côté, des sites web, des campagnes Facebook et tout, mais c'est pas la même chose. Et quand j'ai vu un client faire des milliers de dollars, je me suis dit, wow, un courriel. On a travaillé dessus pendant une heure peut-être et ça lui a ramené un bon 10 000 piastres. Je dis, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie sans devoir pousser les gens, donner leur argent, investir beaucoup dans l'Instagram, le temps. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Je me dis, un courriel, c'est tout ce qu'il a pris. Il y avait pas de site web, il y avait pas de médias sociaux, il y avait rien. Juste ses campagnes. Et là, ça m'a ouvert les yeux. Là, je dis, c'est fini. C'est juste ça que je veux faire. Et là, j'ai rapetissé les services que j'offrais dans mon entreprise, évidemment. J'ai renommé mon entreprise aussi. Là, toute mon énergie va vers le côté email marketing.
Wow, nice. Puis le email marketing, moi, qu'est-ce que j'en vois, puis qu'est-ce que j'en vois aussi chez nos clients et puis sur des gens qu'on étudiait, c'est qu'à un certain point, quand tu as une liste qui arrive à un certain niveau, c'est quelque chose qui est extrêmement prédictable comme forme de marketing, dans le sens où est-ce que tu peux dire, j'envoie un nombre X de courriels, j'ai un nombre X de, dans le domaine, on appelle de click-through, de gens qui vont cliquer sur le lien, et puis après, j'ai un nombre X de conversions. Ben, comme la plupart des types de marketing, à un certain point sur le web deviennent très prédictables, mais j'ai l'impression que l'email marketing, il y a moyen de tracker les métriques à un niveau encore plus précis.
Oui, exactement. Si on prend l'exemple là, des Facebook Ads, on prend l'énergie de prendre une belle image, un beau vidéo, on est en train de faire notre audience, on dit qu'il est tel âge, dans telle partie du pays et tout, mais c'est pas les gens que vous connaissez, c'est Facebook qui va prendre la décision à qui va le montrer et le contrôle sort de vos mains. Tandis que là, avec le courriel, vous avez déjà communiqué avec ces gens-là, ils sont venus dans votre magasin, ils vous ont donné leur courriel quand ils ont acheté quoi que ce soit, et là, vous avez une relation... très précise. La relation que vous avez
avec une audience, tu communiques directement avec la personne sur Facebook, exemple en Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn ou les autres canaux, tu communiques à une audience. Tu sais que les gens à qui tu communiques qui ont un certain âge, tu sais qu'ils ont certaines spécificités, mais tu ne sais pas précisément c'est qui, puis tu vas jamais pouvoir précisément dire « Ah, c'est Bob un tel de telle ville, il a tel âge, puis il a acheté précisément deux fois chez moi en sachant exactement c'est qui. » L'email marketing, ça te permet de toucher directement les gens plutôt qu'une audience, puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui en fait une forme complètement unique de marketing et aussi sous-estimée.
Exactement. Et il y a quelques années, quand les nouvelles lois sont passées, on avait eu beaucoup de tout le monde avait des craintes, là, évidemment, pas chez Cakemail. Oui. Nous, on savait que c'était là pour aider les gens puis nous aider à mieux faire le marketing.
Oui.
Mais les clients eux-mêmes, ils ont commencé à paniquer, ils comprenaient pas pourquoi ils devaient faire certaines choses, pourquoi ils pouvaient plus acheter de listes. Et là, c'est la grosse panique. Le courriel, l'email marketing va mourir. Il n'y a plus jamais personne qui va réutiliser ça. Et ça nous a pris beaucoup de travail à expliquer les gens que les lois ont rien changé. Les lois étaient là pour mettre en sorte que les gens aient des bonnes pratiques. Si tu as des bonnes pratiques,
exactement,
c'est assez. Tu n'avais rien besoin de changer. Peut-être, évidemment, il fallait qu'on reconfirme nos clients, là, les gens qui t'ont inscrit. Mais outre que ça,
il n'y
a aucun changement. Oui.
À l'époque, je travaillais chez Des Lauriers Associés comme directeur au développement des affaires. En gros, je faisais du business development pour un cabinet d'assurance de dommages dans le commercial, dans le fond, dans le B2B, du gros B2B. Et puis, évidemment, on communiquait souvent avec nos clients. Puis quand ça arrivait, tout le monde paniquait. C'était un assez gros cabinet. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient. Tout le monde paniquait, tout ça. Moi, ils me demandaient qu'est-ce que ça voulait dire, que je sais pas. Puis là, à un moment donné, le président est arrivé. Puis que le gars d'IT, parce que tu sais, le gars d'IT, il sait tout, bien sûr, note. Et puis, ils ont dit, OK, pour emailer les clients, ça, c'est vraiment drôle, les clients actifs, là, les clients qui te communiquent, il va falloir leur demander la permission. Genre des clients avec qui on a une relation d'affaires établie, que je leur envoie des emails pour dire comme, genre, est-ce qu'on se voit toujours pour dîner vendredi midi? Il était comme... Appelle-les, demande-leur d'envoyer un email pour te demander s'il peut t'envoyer, si toi tu peux lui envoyer un email. Puis j'étais comme, mais là, c'est ridicule, là. Puis t'es comme, on va être sûr de pas avoir d'amende. Parce que si tout le monde contrevient à ça, ça va nous coûter vraiment cher d'amende. Puis j'étais comme, j'appelais la personne, puis j'étais comme, peux-tu m'envoyer un email pour dire que tu me donnes le droit de communiquer avec toi par email?
Oh God.
Puis moi, je vais te répondre avec ce que je voulais te répondre. Oh, on a fait ça, j'étais comme, ça n'a pas de sens. Puis au bout de deux semaines, on a été chercher de la vraie formation pour le business. C'était ridicule. Mais Ouais, ça, c'était mon anecdote là, de GDPR. Là. Pas GDPR, mais de la loi canadienne là, sur les emails. Là,
Le castle.
C'est ça, exactement. C'est ça. Fait, admettons, partons du début. J'ai une petite moyenne entreprise. Je me dis, tu sais quoi, les emails, c'est important. Par où je commence? Qu'est-ce que je choisis? Moi, je sais rien. Genre, je suis dumb. Je sais rien. Je commence par où pour faire mon email marketing?
OK. La première chose qu'il faut, c'est un nom de domaine. Beaucoup de gens, spécialement des petites entreprises, on n'a pas d'argent, évidemment, voir des boîtes de courriel, des noms de domaine, un site web et tout, mais c'est super important. Le nom de domaine sert à mesurer votre réputation en ligne, que ce soit votre site web, les médias sociaux, tout ce qui est associé à ça, évidemment, les courriels. Il y a des produits, évidemment, comme Zoho, qui sont gratuits. Et c'est ça, évidemment, la crainte, là, payer 15$ pour avoir un courriel que personne utilise pour envoyer ou recevoir des courriels personnellement, ça sert à rien. Donc, Zoho, Z-O-H-O, ça vous permet d'avoir jusqu'à, je pense, 10 courriels gratuitement. Donc, le seul achat que vous avez besoin de faire, c'est vraiment le 2$ chez GoDaddy ou votre cPanel. Qu'est-ce qu'il y a ici comme entreprise québécoise qui font comme GoDaddy? Il y a un nom qui m'échappe, là.
Josiane, tu les connais. J'ai un blanc.
Moi aussi, le logo, il est bleu. Mon Dieu,
il est bleu,
tête.
Oui, je sais.
Il y a Bluehost.
Alors, ça, c'est aux États-Unis.
Cyber Impact.
Cyber Impact.
Oui, il y a Cyber Impact.
J'ai même collaboré avec eux pour dire comment le contenu est important pour justement le email marketing, parce que on s'entend, tu sais, pas de contenu, ça convertit pas bien. Puis j'aimerais avoir ton point là-dessus aussi, parce que ça continue aussi dans le démarchage. Ben continue, qu'est-ce que tu avais à dire à propos justement du email marketing, puis après ça on va rentrer un petit peu plus dans le contenu.
Bien sûr. Donc la première chose qu'il faut, évidemment, c'est le nom de domaine. Il faut faire attention le devant du courriel, de pas avoir des mots qui sont généralistes comme de département, comme secrétariat, billing, admin, no reply. La raison est simple, ces courriels-là actuellement sont utilisés pour être partagés par des équipes. Donc, par exemple, marketing@neomedia.ca, sûrement les courriels qui sont envoyés là vont être redistribués vers Josiane, vers Simon, vers moi, vers le reste de l'équipe. Ça fait en sorte que quand Google ou Yahoo reçoit ces courriels-là, il va faire c'est peut-être un département, c'est pas vraiment une personne qui est en arrière de ça. Donc,
ça peut affecter la liberté. La meilleure manière, ce serait genre d'avoir john@neomediaexemple.ca
donc côté réputation, exactement. Donc, c'est côté réputation. Si j'envoie de marketing@yanatery.com et la CRTC s'en vient me dire, ben là, vous êtes en train de faire du spam, mais on peut tous se regarder dans les yeux, c'est pas moi, c'est elle, non, c'est elle, c'est lui. On peut pas aller chercher c'est qui la personne. L'entreprise va avoir évidemment l'amende, mais il y a personne qui va avoir besoin d'aller faire une formation, apprendre ou faire des changements.
Ça me fait penser. Est-ce qu'on aurait le droit, je dis ça comme ça, puis je te pose la question, c'est une question qui m'est venue justement en disant, t'as besoin d'une vraie personnalité, t'as besoin d'un vrai humain, un vrai humain. C'est ça ma question, c'est est-ce que ça a besoin d'être un vrai humain? Est-ce que je peux créer un persona, exemple, un persona qui communique au nom de ma marque à mes clients sur le web? Un persona que j'ai inventé, qui a un certain type, qui est inventé, qui est pas moi. Comme exemple, je pourrais-tu créer genre... encore là, je vais revenir avec mon nom de john@neomedia.ca, puis signer en son nom, agir comme par email. Je sais pas, sérieux, c'est tricky comme situation, mais toi, en tant qu'expert, ça se fait-tu ou ça se fait pas?
Parce que je me suis déjà fait poser la question. Il y a pas vraiment un problème. Il faut juste, côté légal, c'est pas la fin du monde, là. Si moi, je voulais écrire, restaurant, ça me tente, @yanatery.com, il y a personne qui m'arrête. La réalité, c'est juste de s'assurer que si jamais, ça vient des deux côtés, ça vient du côté envoi et ça vient du côté réception aussi. Si vous avez des gens dans votre liste qui sont admin, billing ou secrétariat @ quoi que ce soit, ça fait en sorte que si cette personne-là s'en va et là se fait remplacer par une autre personne, ben cette personne-là va commencer à cliquer sur spam. C'est pour moi qui s'est inscrit sur ces courriels-là. Ouais. Donc, on s'entend que Le courriel est partagé par les personnes qui occupent le poste. Donc là, si on revient du côté envoi, la raison du côté envoi qu'on veut pas avoir un nom général de département, c'est parce que la personne qui reçoit le courriel, que ce soit Gmail, Yahoo ou quoi que ce soit, savent que c'est pas une personne de l'autre côté. Et la même chose pour le no reply. Et ça peut affecter votre réputation. Là, le côté réputation devient très compliqué parce que, évidemment, quand on regarde les grosses entreprises, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont un volume énorme. Ils ont une armée de personnes comme moi qui travaillent en arrière pour s'assurer que la réputation est maintenue. Et là, j'arrête pas de parler de réputation, mais j'ai pas expliqué c'est quoi. La réputation, c'est honnêtement votre code de crédit pour votre nom de domaine. Donc, si vous êtes des gens qui envoyez, tout le monde clique sur spam, vous allez jamais enlever des gens de votre liste qui sont pas engagés avec votre contenu. Mais là, toutes les ESP vont regarder votre nom de domaine, ça regarde. T'envoies 10 millions de courriels, puis sur 10 millions, il y en a 5 qui l'ouvrent. Ou t'as acheté la liste. Allez. Ou tu t'envoies des choses qui sont pas intéressantes pour ces gens-là, ou c'est des gens qui étaient votre client il y a 10 ans, et là, ils se souviennent même plus vous êtes qui. Et là, ça va vous affecter, et ça l'affecte pas seulement les gens qui sont pas engagés vers vous, ça l'affecte votre réputation. Donc, même si vous envoyez vers des gens qui veulent recevoir votre contenu, puis sont engagés, mais ça se peut qu'eux ne les reçoivent pas non plus. Et là, c'est la partie qui est un peu FBI secrète que moi, je tripais bien raide quand je travaillais chez Cakeman. parce que c'est la code de crédit, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Si on paye à temps, c'est correct. Mais là, ce que les gens, ils savent pas. Si tu fermes une carte de crédit, même si c'est un code de crédit super parfaite, juste une carte que tu n'utilises plus, une carte de l'abbé, fermer une carte de crédit, c'est mal vu. Pourquoi? Honnêtement, c'est un ordinateur qui va décider ça. Mais c'est la même chose pour côté courriel. Il y a 1000 décisions que vous pouvez prendre qui vont vous affecter, qui font nécessairement pas tout le temps du sens. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui va monitorer la réputation, va s'assurer que les courriels qui sont envoyés sont reçus et évidemment sont mis dans la boîte de courriel des gens, non pas dans spam ou junk. Donc, la réputation...
Et puis, quand tu dis que quelqu'un devrait regarder ça, est-ce que c'est quelqu'un qu'on engage? Est-ce que c'est une agence qu'on engage? Un pigiste? Comment ça fonctionne? Mettons, j'ai une petite entreprise, puis j'ai pas d'argent beaucoup pour me le permettre. C'est quoi mes options pour faire sûr de garder un bon niveau de réputation pour mon domaine, mais tout en restant dans le budget?
OK. Donc, il y a plusieurs options, évidemment, dépendant de la grosseur de l'entreprise. Pour une petite entreprise, il y a deux choses qui peuvent être faites très facilement. Il y a plusieurs produits en ligne qui sont très, très simples, qui vous permettent, comme MX Toolbox, les produits comme ça, qui vont vous permettre de monitorer si, évidemment, vos courriels sont reçus. Et l'autre chose, c'est si vos courriels sont spoofés ou fichés par quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un en Inde ou en Chine ou en Russie décide de prendre votre nom de domaine et commencer à envoyer à des gens en utilisant votre nom, vous allez pouvoir le savoir aussi, puis communiquer avec GoDaddy ou n'importe qui pour leur dire « Hey, il y a quelqu'un qui est en train de faire en semblant d'être moi. Est-ce que tu peux t'en occuper? » Ils vont aller shut down ça immédiatement. Et là, ça monte parce que le côté en arrière de l'Internet, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Donc, Google, évidemment, est connecté. Yahoo, ils se parlent entre eux. Donc, si jamais vous allez vous protéger vous-même, ces entreprises-là le savent. Ils savent que cette entreprise-là regarde ses affaires et s'assure que ses clients et le monde en général est protégé. Ça, c'est une bonne entreprise. C'est un bon nom de domaine avec une bonne réputation. Ça vous aide. Donc, vous pouvez sinon engager évidemment un pigiste ou une entreprise comme la mienne pour le monitorer. Évidemment, on va s'assurer que vous allez laver vos listes, enlever toutes les gens qui sont pas engagés ou au moins les mettre de côté pour leur envoyer les segmenter de côté pour leur envoyer des choses spécifiquement à eux pour essayer de les rattraper, évidemment. C'est pas parce que quelqu'un qui est moins engagé que il faut s'en débarrasser complètement. C'est une chose que tout le monde a tout le temps peur qu'ils me voient venir avec « c'est le temps de laver votre liste ». Ils ont peur de perdre 100% de leur liste.
Ben oui, les gens, ils veulent le gros chiffre. Les gens sont comme « Hey, si j'ai 25 000 personnes dans ma liste, c'est plus de dollars que si j'en ai 21 000. Qu'est-ce qui arrive avec ces 4 000-là? Pourquoi je voudrais les flusher? Parce que grosse liste égale gros dollar. » Ça, c'est le stigma qu'on va...
Mais on voit même avec les médias sociaux. Les gens se disent, j'ai 15 000 abonnés, c'est sûr que je vais être hot. Mais des fois, le taux d'engagement est de zéro.
Exactement, il y a zéro activité. Il y a 15 000 abonnés, zéro activité, ça ne vaut rien.
Ah, exactement. Donc, mais, c'est comme moi avec mes petites stories sur Instagram. Là, je suis pas très, très spécialiste là-dedans. Là, j'ai de la misère.
Mais c'est valuable. C'est, ce que tu dis exactement. Est valuable. Puis oui. Ça, c'est important. Puis ça, over time, les gens vont retourner dans le passé quand ils vont te découvrir. Puis vont faire comme, wow, she's been there for a while. She knows what you talk about. Et puis, c'est ça qui va se passer. Puis, tu sais, c'est de quoi qui reste à travers le temps.
Exactement.
Sur les médias sociaux.
C'est quelque
sociaux.
Chose que moi, je sais que je sais pas. Pas que je sais pas bien faire, mais je suis pas spécialiste là-dedans. Je sais pas les heures qu'il faut aller poster, la longueur, les petits détails là, qui vont faire la différence entre quelqu'un comme vous qui vont faire une campagne, puis vous savez exactement les étapes à faire versus moi qui sais juste utiliser Instagram.
Garde, le côté sérieux, email tu, est tu pareil. Fais une bonne job sur les médias sociaux, justement. Pour les gens qui veulent aller voir, c'est Please to Mail You. Et puis... Tu fais une bonne job. Je veux dire, la seule chose que ça prend pour qu'il y ait d'attraction, c'est que tu mettes exemple, hein, même si c'est pas un énorme montant, ça va lever un genre 5$ par jour en publicité Facebook, Instagram sur ton truc pour de l'interaction. Il va y avoir de l'interaction, okay. Puis ton message va commencer à se spread. Mais retournons au email marketing. J'ai une question. Oui. Cette question-là me trotte depuis le début. Parce que ça, c'est le quand on parle d'email marketing à nos clients, c'est le topic, le sujet qu'on se fait le plus discuter, qu'on débat le plus longtemps. Je trouve qu'on passe trop souvent trop de temps dessus, que la décision, elle est prise avec les mauvaises réflexions trop souvent. C'est quel fournisseur email marketing on choisit? Moi, j'entends toujours, on va avec MailChimp par défaut, mais on se demande pas pourquoi on va avec MailChimp. On va avec un gratuit, on sait pas pourquoi on va avec un gratuit, même si c'est pas un problème d'argent. C'est quoi la différence entre un fournisseur gratuit et un fournisseur payant? C'est quoi la différence entre un fournisseur... parce que je pense qu'avant d'aller plus loin, ça, c'est vraiment une discussion que sur ce sujet-là, en tant que tel, peut être hyper profonde. Lequel provider choisit puis pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment comme le gros questionnement de par où qu'on commence parce qu'on imagine qu'on va être là pour le long terme. Donc, est-ce que je suis mieux d'aller avec un truc super généraliste comme MailChimp ou d'aller avec une compagnie beaucoup plus spécialisée comme CakeMail, ou d'aller avec un service qui dit « Ah, je me spécialise en e-commerce », comme exemple, Klaviyo. Par où que je commence comme logiciel de email marketing, je suis dumb puis je sais pas où aller.
OK. Donc, évidemment, la première question, c'est de regarder le budget et de regarder les produits et les features qui sont offerts. Et en termes de budget, moi, je parle pas juste d'argent, je parle de temps. Donc, on regarde MailChimp, il y a quelques années, ils se sont fait investir beaucoup d'argent, ils ont investi beaucoup de temps à créer plein de features, des landing pages, plein de choses qui étaient peut-être reliées, évidemment, les médias sociaux avec le email, mais c'était pas juste du email. Et les gens sont prêts à payer, mais ils n'utilisent aucun feature. Ils n'utilisent pas les landing pages, ils n'utilisent même pas les formulaires pour pouvoir, évidemment, connecter les inscriptions automatiquement. Donc, ouais. Regardez les features. Si votre but, c'est évidemment au début, on essaie de limiter notre temps sur le marketing. On veut pas passer 80 heures à juste faire des campagnes, des courriels, du contenu. Si vous êtes une business, par exemple, B2B, donc là, vous allez parler à d'autres entreprises, quelque chose comme HubSpot, ça peut être super intéressant pour vous parce que ça vous donne des outils que vous allez utiliser. Votre CRM, vous allez pouvoir mettre des notes, vous allez pouvoir vous occuper des permissions des gens, leur envoyer des documents, des courriels qui ont l'air écrits à la main versus des courriels qui sont super beaux, designés avec des photos, des couleurs. Ouais. Pour donner l'allure, évidemment, aux gens que vous avez écrit le courriel à la main directement à lui, pour qu'ils sachent pas que c'était dans un système d'automation, vous avez créé comme 10 courriels d'une shot, là, puis là, évidemment, ça s'envoie automatiquement.
Exact. Ouais.
Si vous êtes quelqu'un qui voulait envoyer des campagnes super, super hot, mais là, évidemment, là, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Vous avez Constant Contact, vous avez SendinBlue, GetResponse, Drip, MailChimp, GetResponse, même HubSpot envoie des courriels qui sont super beaux ouais, à marketing.
HubSpot est juste crazy, super, genre, expensive, là, il est très cher. Ouais. Dans le sens où HubSpot, tant que c'est le fun, il y a un forfait gratuit, mais quand tu te mets à payer pas, tu te mets à payer pas à coût de plusieurs centaines de dollars. Mais bon, pour certaines entreprises, c'est ça que ça prend.
Et spécialement au début. Il n'y a rien qui vous arrête de bouger d'une place à l'autre. L'autre question, évidemment, c'est utiliser un produit avec lequel vous vous sentez confortable. Il y a des éditeurs, évidemment, qui... qui peut faire plein de choses cool, mais là, vous envoyez un test sur votre Gmail, puis là, vous voyez, c'est pas super beau. Allez vers un éditeur, où c'est quand vous créez des choses, c'est beau sur mobile, c'est beau sur l'ordinateur, c'est beau chez Outlook 1958. Ça, c'est qu'est-ce qui va vous aider.
Pour le fournisseur, puis ça, c'est, je dirais, je pense, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, peut-être c'est le cas, tu es l'experte, je te fais confiance. pour le fournisseur, est-ce que je peux en prendre un? Est-ce que je pense, il y a une certaine réputation, le fournisseur.
Oui.
Il y a certains fournisseurs qui ont une meilleure réputation, d'autres qui ont moins bonne réputation. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être discuté ou on peut simplement dire s'ils sont publics, s'ils sont mainstream, ils ont automatiquement une bonne réputation ou c'est quelque chose qu'on doit étudier pour dire moi, je vais être là pour le long terme, mais je vais être sûr que mes emails se rendent bien à ma liste. Comment est-ce que je sais si le fournisseur avec qui je choisis va faire en sorte de livrer la marchandise ou faire sûr qu'il n'est pas blacklisté d'une manière ou d'une autre par un fournisseur de email XYZ?
OK. Donc, côté livrabilité, évidemment, les grosses entreprises sont très mainstream, ont une bonne réputation. C'est les outils que toutes les email geeks, on va utiliser pour s'assurer que nos clients sont protégés. Mais il faut faire attention quand, juste parce qu'évidemment, les gens ne le savent pas, quand on envoie un courriel, vous allez regarder en ligne, c'est quoi la procédure, qu'est-ce qui se passe en arrière quand quelqu'un envoie un courriel, que ce soit personnel ou du côté marketing. Il y a le service qui envoie le courriel. Donc là, par exemple, chez Cakemail, nous, on avait les serveurs de chez Cakemail envoyaient à votre nom les courriels. Là, le nom de domaine est aussi un indicateur de réputation. Donc, c'était un mix entre ma réputation à moi et la réputation de Cakemail. Comme un nouveau client ou une personne qui n'a jamais fait de courriel marketing, la réputation de Cakemail m'aurait aidé à mieux me placer dans l'inbox des gens. Si moi, je commence à faire du spam, à envoyer des choses avec, en tout cas, des choses que les gens voudraient vraiment pas recevoir dans leur inbox, moi, je pourrais affecter la réputation de Cakemail. Évidemment, il faut vraiment un volume là pour faire la comparaison contre le volume de Cakemail qui est immense par jour. Mais si j'ai un volume de quelques millions et mes quelques millions cliquent tout sur spam ou ils bounce tout, là, évidemment, je pourrais affecter la réputation de Cakemail qui affecterait tous ses clients à lui. Il y a des gens, toutes ces entreprises-là, vous pouvez leur contacter, leur demander un papier plus ou moins officiel pour leur demander c'est quoi leur réputation. La part de ces gens-là, ils ont du 97 à 100, non 100%, c'est pas vraiment possible à leur volume, mais 97%, le moment que tu es par-dessus de 92%, de bonne réputation. C'est une compagnie qui est réputable. Ils envoient des millions de courriels par jour, donc des clients qui vont se faire affecter plus que d'autres. Mais la chose la plus importante, c'est votre réputation de votre nom de domaine et de l'authentifier avec l'outil que vous utilisez. Mais tout ce qui est mainstream vous protège et vous aide même à envoyer. Il y a plusieurs compagnies ici, spécialement au Québec, qui décident de créer leur propre plateforme interne, vu qu'ils envoient des gros volumes. Puis là, payer 53 millions de courriels par jour chez Mailchimp, ça coûte cher.
Oui.
Mais à la fin de l'année, le montant que vous donnez pour que quelqu'un d'autre s'occupe de cette réputation-là, on s'entend, il y a une armée chez Mailchimp de personnes qui sont en livrabilité versus deux personnes peut-être qui travaillent chez vous, tu sais, internes, avec ouais, un vrai designer et tout. Est-ce que vraiment ça sauve l'argent? Parce que le moment que vous êtes sur une blocklist, si vous n'êtes pas spécialiste comme une vraie personne en livrabilité, vous savez pas comment enlever vos IP sur la blocklist. Donc là, ça veut dire on shoot le serveur dehors d'une fenêtre, on en achète un autre et on recommence la réputation du début comme un enfant de 18 ans qui vient de recevoir sa carte de crédit pour la première fois. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Là, ça dépend. Mais pour des petites entreprises, ça vaut la peine d'utiliser un MailChimp, un Constant Contact, un Cakemail pour que leur réputation à eux, qui est là depuis des années avec un gros volume, vous aide chez vous, évidemment.
Super. Fait que maintenant, exemple, j'ai choisi un fournisseur pour mon email marketing. C'est quoi l'étape suivante? Je dis quoi à ma liste? Je commence, j'ai une dizaine de personnes dans ma liste, c'est-à-dire ma mère, mon père.
Mon chien puis mon chat.
Mon chien, mon chat, mes deux, trois clients fidèles. Où est-ce que je commence? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais chercher des leads? Je lui dis quoi? Again, encore une fois, je suis dumb.
OK. Donc, la première chose, puis j'arrête pas d'en parler, Évidemment, c'est relié à la réputation parce que c'est la chose la plus importante. Je pourrais travailler 100 000 heures sur une super petite stratégie, des campagnes qui font de l'animation dedans, mais si personne la reçoit, ça sert à rien.
On a eu des clients comme ça. C'est vraiment, on a eu des clients qui, c'est comme, le email doit être super beau. Ici, il est super beau, les gens vont acheter. Mais oui, mais non. T'envoies avec une adresse info, puis en plus de ça, ton contenu, il y a zéro texte, puis juste des images, puis toi, tu
n'y a pas de lien vers le site web.
Aucun lien vers le site web, t'es malade, ça va vendre. En gros, c'était leur graphiste qui mettait un méga JPEG dedans.
Ils nous disaient. Je sais tellement de qui tu parles.
Ils nous disaient, tu la fermes puis t'envoies ça. Notre graphiste connaît ça. Mais je vais pas croire que ton graphiste connaît ça, mais il y a d'autres professions aussi d'impliquer là-dedans. C'était un JPEG, leur image, leur email marketing. Évidemment, le success rate était pas énorme, mais bon, évidemment, on se baquait en leur sortant des emails avec plein de stats, là. Fait que là, on était comme, not our fault, tu sais. Mais je commence où? Je mets quoi
donc,
comme
l'authentification.
Contenu?
Tu vas sur Google, tu mets le nom de du produit que tu utilises, là, comme CakeMail. Et là, tu t'écris à côté authentication. Authentification en français, évidemment. Et là, vous prenez la page de support et vous la lisez. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, vous rentrez dans votre hosting provider chez GoDaddy ou quoi que ce soit et vous allez faire du copier-coller. Ça a l'air la science, là, super compliqué, là, mais dans la page de support, vous allez voir deux choses qui sont très bizarres. Vous faites un copier, vous faites un coller, 4 fois et c'est tout.
En
si
gros,
vous n'êtes pas capable de le faire...
Où est-ce qu'on connecte le nom de domaine, dans le fond, notrenom.com, à notre fournisseur de email?
Ah, OK. Donc, si vous voulez connecter votre nom de domaine, tous les outils vont vous dire écrivez le nom de domaine, le courriel. Vous allez recevoir un courriel, vous allez faire confirmer. Le système va avoir le courriel dedans. L'authentification, ça prouve que moi, Yana Thury, chez Please to Mail You, j'ai donné la permission à MailChimp d'envoyer des courriels à mon nom à travers leur système.
Exactement.
Moi, j'utilise G Suite là, pour mes courriels personnels. Là, comme
oui, nous aussi. On est des gros fans de G Suite.
Ouais, donc c'est facile, c'est pas très sécuritaire en termes de, je sais pas ce qui se passe en Chine, en Russie avec mon information, mais en termes de produit, le produit est vraiment hot. Donc, se connecter ma boîte courriel pour que le nom de domaine soit là, c'est parfait. Mais moi, vu que j'utilise Gmail, dans mon hosting provider, il sait que les courriels devraient partir de chez Gmail. Donc là, il y a comme un courriel qui sort de MailChimp ou de CakeMail avec mon nom de domaine, leur serveur, rentre dans ton inbox. Ça, c'est pas normal. Donc, il faut, en mettant ces informations-là dans votre hosting, dans votre DNS, vous allez voir, quand Google va recevoir le courriel, il va aller regarder dans mon DNS, il va dire, ah, Yana Thury de Please to Mail You a donné la permission à MailChimp d'envoyer en utilisant son nom de domaine cette adresse courriel-là. Ça fait en sorte que c'est pas quelqu'un en Russie qui a pris mon courriel puis fait du phishing ou du spoofing. C'est vraiment moi, chez MailChimp, qui envoie les courriels. Et c'est ça la différence. Parce que les gens pensent qu'en mettant leur nom de courriel, en utilisant le courriel, est-ce que tu sais, cliquer ici pour confirmer, là, c'est assez. Mais ça, c'est pas assez. Ça, c'est juste assez pour le système d'avoir le nom de domaine et votre courriel, évidemment, qui va être utilisé pour être envoyé. Là, je pourrais vous envoyer des screenshots qu'on pourrait mettre dans le podcast si ça vous intéresse, de qu'est-ce qui est la différence dans l'inbox de la personne, un courriel authentifié puis un courriel qui n'est pas authentifié.
C'est une bonne idée, Josiane, pour écrire du contenu autour de ça, puis justement faire un genre
sûr,
de avant-après sur notre Instagram. Ah,
oui.
Ben,
super!
Feel free, hein! Feel free.
Guest blogging!
Ben oui, on avait un blog sur l'ancienne version du site de Néomédia.
Il est encore là, il faut juste le réintégrer.
C'est ça, il n'est juste pas intégré au nouveau design qu'on a fait dernièrement. Mais il faudrait, parce que j'ai mis du temps en temps à faire des articles de qualité. Je sais pas si tu te rappelles.
Oui.
J'avais fait des lectures là, sur des sujets pas possibles. Il y avait même un article, j'avais passé une journée dessus. Puis justement, ces articles-là, c'était dans le but d'ajouter des gens à notre liste de courriels, justement.
Exactement.
Puis, we need to work together. On a besoin de travailler ensemble.
Bien sûr.
Mais là aussi, on a Philippe qui va travailler sur le blog,
contenu,
ouais, sur le contenu. Donc, c'est vraiment génial. Yes.
Oui, donc c'est super intéressant. Puis en plus, relié, pas relié, mais quand vous recevez des courriels, là, puis là, vous n'êtes pas sûr, c'est-tu vraiment PayPal qui m'envoie ce courriel-là ou c'est-tu vraiment ma banque? Il y a des façons très faciles d'aller vérifier ça. Puis ce qu'on vérifie directement dans ton inbox, voir ce que c'est le PayPal qui l'a envoyé, c'est littéralement la partie authentification. Est-ce que Yann Atterri Aspraki de Please Email You a donné la permission à CakeMail d'envoyer des courriels? Il y a comme une signature, comme un double code. Puis ça, c'est dans chaque courriel que vous envoyez. Donc, vous allez le regarder et là, vous allez voir si c'est vraiment moi qui l'ai envoyé ou pas. Donc, c'est la même, c'est une mesure de sécurité. C'est comme aller à la banque, puis elle te demande deux pièces d'identification. Ça se peut que la madame, elle me reconnaisse puis elle dit « OK, voici une nouvelle carte de débit. » Mais la plupart du temps, si je vais dans une autre banque, une branche où les gens ne me connaissent pas, la banque va dire non. Exact. Donc, est-ce que ça nous intéresse d'avoir un « peut-être le courriel va passer, peut-être qu'il va pas passer ». Moi, ça m'intéresse pas de travailler des heures sur des courriels puis que peut-être les gens le reçoivent. Donc, prendre le 30 minutes de le faire, c'est super important. Et honnêtement, si jamais vous paniquez, vous savez pas quoi faire, vous trouvez pas le blog post que je vais écrire pour Josiane puis Simon, allez chez votre fournisseur de nom de domaine puis dites-lui « j'ai besoin d'attention à mon courriel, je sais pas c'est quoi cet article de support dit, tu peux-tu le faire pour moi ?» La plupart du temps, les gens vont dire non, ah, mais là, demandez. Si vous poussez, puis vous demandez, puis vous faites en semblant de pleurer au téléphone parce que là, le monde va finir. The world is gonna end. La personne au côté du téléphone va le faire pour vous. C'est rien de magique.
Ça c'est justement, qu'est-ce qu'on fait chez nos médias? On travaille très souvent avec un paquet de logiciels différents, un paquet d'applications différentes, que ce soit pour WordPress, Shopify, ou que ce soit des logiciels d'email marketing.
Même
ou
de graphisme.
Et puis. Le staff de ces logiciels-là, ils sont extrêmement aidants, sont là pour supporter, ils veulent te garder comme client et c'est leur job. Et puis tellement souvent, j'entends les gens dire « je veux pas les déranger », je suis comme « hey, c'est leur job, t'es un client à eux et puis tu payes pour un service et puis même si tu payes pas, ben ta valeur, que tu sois là en tant que prospect client potentiel, s'ils te donnent accès au service, c'est que la valeur de leads pour eux vaut la peine de te donner le service. Donc, profite de ça. Ça fait partie de ce que tu payes. Ça fait partie du commitment de la marque à te servir. Donc, hyper important, faut en profiter. Parce que souvent, j'ai vu des gens payer pour des gens qui connaissaient un logiciel, qui ont été payés un parti tiers, qui connaissaient pas le logiciel pour faire une intégration de quelque chose qu'ils connaissaient pas, quand il y aurait pu simplement, puis on a fixé des situations comme ça pour des clients. Mais au bout de la ligne, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit comme, hey, the guy that was there before us, la personne qui était là avant nous, a brisé le truc. Est-ce que tu peux nous aider à le réparer? Et puis nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé par le support pour travailler avec eux. Parce que c'est eux qui ont le contrôle du logiciel, c'est eux qui ont le contrôle de la machine. Et puis, même s'ils disent non, ben, c'est gratuit de demander.
Bien sûr. Puis ces gens-là, ils sont là, ils connaissent évidemment ce que vous parlez. Puis l'authentification de courriel, il y a plusieurs formes, mais celle qui est la plus simple, qui fait au moins le strict minimum de donner la permission à l'outil d'envoyer pour vous, c'est super facile. Honnêtement, quand les gens me demandent pourquoi je le fais gratuitement pour des gens qui sont même pas mes clients, c'est parce que ça me prend 5 secondes. Le plus gros problème, c'est que les gens me donnent leur mot de passe là, chez GoDaddy ou quoi que ce soit. Là, c'est un peu moins sécuritaire, mais ça me prend, moi, personnellement, plus de temps à ouvrir mon ordinateur que d'aller faire copier, coller 4 fois.
Exact.
C'est tout. Donc, puis pour moi, ça fait en sorte que le travail que je vais faire ensuite pour ces clients-là ou des amis ou quoi que ce soit va valoir la peine parce que moi, je me sens bien. Les gens vont recevoir ce courriel-là. Donc, ça va être la première chose.
OK, sinon, on a fait...
Oui?
OK, oui, vas-y, excuse-moi, continue.
Ah, moi, j'allais continuer la liste de choses.
Je vais faire la transition. On a fait l'authentification. On est des bons citoyens du web. On s'est authentifié. Maintenant, on a validé que, exemple, la marque XYZ travaille avec, exemple, je pense ça parce que c'est extrêmement commun, avec MailChimp. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape?
OK. Dans tous les outils que vous allez commencer, vous allez avoir une partie pour les courriels de confirmation et les courriels de bienvenue. Les courriels de bienvenue, les confirmations, évidemment, c'est les courriels les plus ouverts. Et le plus que les gens ouvrent et interagissent avec vos courriels, le mieux que c'est pour votre réputation. Donc, évidemment, le courriel de confirmation, c'est celui que quand vous donnez votre courriel, vous recevez, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est votre courriel? Là, vous cliquez sur le lien et là, vous recevez un autre qui est le courriel de bienvenue. Bienvenue, vous avez confirmé votre courriel, voici la promotion ou quoi que ce soit. Donc, ces deux courriels-là, c'est les deux courriels que les gens reçoivent habituellement en premier. La loi dit que il faut un consentement explicite au lieu d'un consentement implicite. Un consentement implicite, c'est quelqu'un qui achète quelque chose dans votre site, sur votre site web. Vous avez le droit de le contacter pendant 6 mois, mais après le 6 mois, c'est fini. Et le but, évidemment, c'est d'aller le chercher pour qu'il soit de vous donner une confirmation explicite. Donc, le double opt-in, ça vous protège de plusieurs choses. Ça vous protège évidemment que les gens ne fassent pas d'erreur dans leur courriel. Il n'y a rien de plus plate que quelqu'un vous donne le courriel, il y a un typo là-dedans et quand vous envoyez une campagne, il ne le reçoit pas. Donc, si les gens font une erreur, ils ne reçoivent pas le courriel de confirmation, ils vont réaliser peut-être qu'il y a une erreur qui a été faite, puis ils vont aller retourner, refaire l'inscription. Et là, oups, ils vont recevoir le courriel de confirmation qu'ils peuvent cliquer. Le courriel de bienvenue a besoin de choses que moi, je trouve... Pas seulement moi, l'industrie va vous le montrer. Allez, vous allez regarder sur Google, c'est très facile. Il faut laisser savoir aux gens qu'est-ce qu'ils vont expect. Combien de courriels que vous allez vous leur envoyer? Quel va être le contenu? Quel est le contenu dans ces courriels-là? Et évidemment, qui vous êtes, là, on s'entend. Moi, je donne souvent mes courriels parce que je veux des PDF ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de pire que deux, trois jours plus tard, je vais regarder mon inbox, là, j'allais faire un peu de ménage. Là, je suis comme, c'est qui, eux, encore? Puis là, je vais aller sur le site web. Ah, oh, c'est vrai, j'ai pris un PDF. On s'entend, c'est pas bien fait. Si je vais dans mon inbox, c'est un courriel personnalisé pour moi. Puis je sais même pas c'est qui, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, j'ai la date, j'ai cette pensée dans ma tête. Ça, c'est pas bien. Donc, en ayant la fréquence, je vais vous envoyer des promotions tous les vendredis, puis de l'information publicitaire tous les lundis. Un, ça permet aux gens de pas être fâchés quand ils commencent à recevoir 25 courriels. Si je donne mon courriel, puis un bienvenue, on se reparle la semaine prochaine, puis je commence à recevoir 3 courriels par jour, l'unsubscribe, ouais. Là, je vais le cliquer vite.
Oui, c'est ça. Puis justement, question de fréquence, une bonne pratique, selon toi, ça serait combien de emails semaine par mois?
Ça dépend de votre entreprise. Ça, là, il y a un sweet spot à faire et le plus... Moi, j'y vais premièrement, combien de temps vous avez à mettre dans votre campagne? Il y a des gens qui vont mettre beaucoup, beaucoup de temps. Puis avoir des campagnes, là, 3 mètres de long, les gens se rendent jamais jusqu'en bas. Il faut que ce soit de la valeur. Il y a de la valeur. Communiquez avec les gens pour se souvenir qu'ils sont là. Vous pouvez le faire par courriel, mais vous avez d'autres, vous avez les médias sociaux, Instagram, quoi que ce soit. Si vous voulez que les gens se souviennent de vous, vous allez le faire de ce côté-là. Les gens vont penser évidemment que le courriel, les consommateurs associent le marketing par email à des offres, de l'information de produits, puis des notifications de services. Donc, si vous êtes là juste pour dire, moi, je suis Josiane, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. OK, ben OK, salut. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chaque courriel doit avoir un but. Donc là, si votre cycle de produits est très court, donc quelqu'un qui travaille dans le domaine de, de job posting, qui envoie des alertes de job, ces gens-là, le moment qu'ils ont trouvé leur job, ben c'est fini la relation avec eux. La relation après peut être maintenue en leur donnant l'information sur comment se parler pour leur interview ou comment se préparer pour leur première journée de travail. Mais là, à un moment donné, quand Indeed continue à m'envoyer des courriels pour des jobs, quand je leur ai dit que j'ai trouvé ma job, ben laissez-moi donc tranquille. Mon Dieu, qui envoie des courriels, c'est super.
Tu te fais contacter 7 ans plus tard. Ça m'est arrivé cette semaine.
Oui, c'est vrai, Josiane s'est fait contacter 7 ans plus tard par une job qu'elle avait appliquée 7 ans plus tard. Et puis, elle était comme, oh my God, on a vu ta candidature il y a 7 ans de ça. Je sais pas si tu viens là de nous. Ça serait un perfect fit today. Puis c'est comme,
ils ont avoué que ça faisait longtemps?
Ouais, je pense que oui.
Non, même pas.
Ah, ils ont pas.
C'est moi qui leur ai dit, ça fait 7 ans.
J'étais comme honnête, au moins ils sont honnêtes.
OK.
Alors finalement, je retire ce que j'ai dit, ils sont pas honnêtes. C'est Josiane qui l'a dit que ça faisait 7 ans.
Oh, exactement. Et ça, c'était vraiment drôle. Mais je vais le dire, c'est qui? C'est ASIC. Mais donc, eux autres, c'est des placements, mettons, de préposés aux bénéficiaires, des infirmières, des choses comme ça, dans les CHSLD. Fait que c'est arrivé en même temps que la pandémie, quand ils m'ont rappelé. Fait que d'après moi, ils ont toutes fouillé, tu sais, les 10 dernières années de CV, puis tout ça, donc... Ça, c'était vraiment intense, là. Tu sais, genre, je fais comme, ouais, qu'est-ce que tu veux? Je pensais que tu voulais que tu aies une campagne de marketing, peut-être pour du recrutement, mais ça m'intéresse pas d'aller travailler chez vous.
Non, c'est ça. C'est malaisant, des trucs comme ça. Puis c'est, tu sais, surtout, c'est ça, quand ça fait 7 ans, c'est comme, nope.
Nope, c'est ça.
Et puis, c'est là, justement, qu'il y aurait bénéficié à avoir quelqu'un qui clean leur liste, même si c'était justement par téléphone.
Bien sûr. Puis c'est ça. Donc, si on revient au point, comme une fois qu'on envoie, si t'es un magasin qui vend des matelas, si la personne, tu sais qu'elle a acheté un matelas, combien d'autres matelas tu penses qu'elle va acheter? Honnêtement. Il faut peut-être que le contenu, max, right?
Ouais, c'est ça, exactement.
Si on s'entend, ou peut-être, donc là, c'est de changer puis de
à moins
de penser,
qu'il y ait un hôtel. S'il y a un hôtel, là,
si le dormez-vous, on s'entend. Donc là, il faut utiliser un peu de logique. Évidemment, dans ton courriel un peu plus bas, tu dirais, par exemple, d'aller chercher les gens, envoie cette campagne-là ou, tu sais, donne ton code promotion à quelqu'un d'autre, puis s'il l'utilise, toi, tu auras un rabais de 25$, tu pourras venir acheter, je sais pas, des oreillers, des quoi que ce soit là, que tu as besoin pour ton lit. Ou d'envoyer des courriels qui vont parler de comment s'occuper de mon matelas, comment le laver. 6 mois plus tard, quand c'est le temps de sortir le matelas, le retourner, le laver ou quoi que ce soit, ça, c'est le temps de m'envoyer un courriel. Ça fait du sens. Ça fait, hey, ça fait 6 mois que tu as acheté ton lit. Est-ce qu'il est encore bon? Ouais, super. Est-ce que tu sais comment l'entretenir?
Ben oui,
ça, c'est l'information qui est valable pour moi.
Ben oui, un deal sur des trucs d'entretien, justement, des how-to qui finissent avec un call to action. Oh mon Dieu, mm-hmm. Ça fait beaucoup d'anglicisme là, mais un guide sur comment le faire avec un appel à l'action. Je vais me faire ramasser par le justicier du français. Sérieusement, comme ma langue
Bonjour,
préférée.
Bonjour, ici l'Office de la langue française en 16, la
déjà,
loi 101.
Déjà, je me fais ramasser, moi, ces médias sociaux parce que je fais une faute là, puis c'est comme, je devrais aller en prison. Ouais, non, c'est ça exactement. C'est comme, fait que je me dis que mon franglais, je vais me faire ramasser, mais.
Mais c'est pas eux qui nous engagent.
Mais c'est vrai, les justiciers du français ne sont pas ceux qui nous engagent. On a beaucoup plus de succès au niveau anglo, fait que ça va.
Moi, j'ai regardé un TED Talk, il y a quelques semaines, qui était par rapport à la langue française. Ah, t'as-tu vu? C'était malade. Oui. Moi, j'ai adoré. Je me souviens plus, je pense que je l'ai posté.
Je
l'avais envoyé, Josiane,
je vais commencer à l'écouter, mais.
Oui, ben il est sur le profil de Yana sur Facebook.
Je ne pose jamais rien, mais celle-là, je l'avais bien appréciée. Mais
le French.
Le French, ah, le French, ben oui. Mais le point que j'avais bien aimé, puis ça revient à ce que tu dis, c'est que si tu as une opinion, puis tu fais une erreur, que ce soit d'orthographe, de grammaire, un anglicisme, quoi que ce soit, les gens vont t'attaquer par rapport à cette erreur-là, c'est correct.
Exactement.
Fine. Mais ça fait en sorte que ton point n'est plus valable. Ça, c'est la partie que je trouve très, très drôle. Si je fais une faute d'orthographe, je peux être le président du monde, la personne la plus intelligente du monde, mais si j'oublie un S, ben là, mon point au complet, il est plus valable.
Exactement.
Exactement.
C'est intéressant.
Ça, c'est quelque chose qui est très unique. Puis lié au français, on a avec nous, on a Christina. Christina, justement, qui est grecque, entre autres.
On aime les Grecs, nous
oui,
autres.
Oui, c'est ça.
Ben, salut.
Christina, et puis Christina, justement, on avait un client qui avait insulté Josiane. C'est pas des blagues, parce que Josiane avait fait un typo dans un email, justement. Et puis, il a dit, c'est pas professionnel, c'est pas correct. Puis, c'était,
vous n'avez pas le souci du détail chez Néomédia.
Vraiment, on était une personne horrible parce qu'il y avait un S de trop, un mot ou deux espaces à la place d'un espace, vraiment une niaiserie comme
ça. On
l'a
fait même reviser par notre correcteur.
Dit, je comprends pas, j'ai jamais vu ça comme quelqu'un capoté comme ça. Puis elle comprenait pas, elle comprenait juste pas. Elle dit, elle a 25 ans d'expérience dans le monde du marketing. Avant d'être sur le web avec nous, elle était dans le marketing plus traditionnel avec des vieilles agences qui sont là depuis longtemps. Et puis elle disait, j'ai jamais vu ça en 25 ans, quelqu'un qui t'insulte pour une faute de frappe, puis elle est plus anglophone que francophone. T'sais, elle vit dans un monde anglophone, Ed Westmount, fait que pour elle vit en anglais, principalement, et puis on y a expliqué, ben, parce qu'en français, le français, j'avais lu à quelque part un texte vraiment intéressant là-dessus, et puis le français, c'est la seule langue au monde, ou presque, où est-ce que les gens virent complètement fou à cause d'une faute d'orthographe ou des fautes qui sont mineures. En anglais, ils vont pas te faire des trucs du genre « je saigne des yeux, c'est difficile yes. ». Et puis dans les autres langues, c'est beaucoup plus tant que le message passe, tandis qu'en français, c'est quelque chose de plus. Il y a une certaine un certain snobisme francophone international. Et puis le pire, c'est que je pourrais parler dans un français normalisé, mais j'ai pas envie. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de parler avec une personnalité. Et puis j'ai envie de parler comme je pense et je pense en franglais. Fait que moi, je dirais aux gens, ben, s'ils veulent bénéficier de notre content, ben qu'ils écoutent le beau franglais qu'on leur parle, parce que c'est la manière la plus valuable qu'on trouve de leur apporter un message. Et puis pour moi, la valeur du message vaut beaucoup plus cher que de mettre des gants blancs pour parler le français.
Ah, oh, mais moi, hier, ça me fait penser, je regardais TikTok, puis une TikTokers qui parlait le chiac, c'est encore pire. C'est comme du vrai franglais.
C'est vrai. C'est vrai. Donc,
à regarder sur TikTok. Sur TikTok, les personnes parlent chiac.
Ouais.
Oui.
Oui.
Fait qu'on était rendu.
C'est quoi le point? On t'est rendu par rapport à l'authentification.
Exactement. On a fait l'authentification.
Parfait.
On a choisi notre, ben, on a choisi notre plateforme. On a fait l'authentification. Les courriels de bienvenue. Oui.
Bon, c'est ça. Courriel de bienvenue, fréquence. Il faut parler, il faut s'assurer que les gens sachent à quelle fréquence ça les renvoyer. Si jamais ça change, c'est pas la fin du monde, dans le prochain courriel que vous dites, ah, dès maintenant, on va commencer à vous envoyer plus le vendredi au lieu de le lundi. Et voilà, c'est pas la fin du monde. Les gens, ils doivent juste s'attendre à votre courriel. Si vous leur dites, on va vous envoyer 25 courriels par jour, puis la personne dit, OK, ben c'est correct. Quand vous allez leur envoyer 25 courriels par jour, ce sera pas une surprise. Les gens le savent, vous les avez avertis. Il n'y a aucun problème.
Façon, c'est pas de la bonne pratique, 25 courriels par jour. Ne prenez pas Yana au mot là-dessus, mais non, c'est vrai. Je comprends, il y a des gens qui vont dire, elle me dit d'envoyer 25 courriels par jour.
Il faut avoir des disclaimers partout.
Exactement, oui, vous allez recevoir 25 courriels par jour, soyez prêts.
Mais si vous pouvez envoyer des 25 courriels par jour, là, envoyez-moi les gens qui écrivent pour vous, parce que j'ai besoin de plus de gens qui écrivent, parce que 25 courriels par jour, je suis pas capable de fournir, ça c'est sûr et certain.
Ben, exemple, quelqu'un qui a un site de petites annonces avec des notifications, des trucs comme ça, peut-être, mais là, c'est différent.
C'est ça.
Là, on est dans quelque chose de différent. Puis, OK. Mon client, c'est pas identifié, mais il a accepté que je communique avec lui. On est devenu copain de email. Qu'est-ce que je fais avec lui?
OK. Donc, avant de commencer à envoyer, vous devez commencer à. Il faut vraiment savoir quel est le type de contenu que vous allez envoyer. Est-ce que c'est des promotions, ou est-ce que c'est des coupons, est-ce que c'est juste de l'information? Et là, vous allez pouvoir vous organiser dans votre semaine, organiser évidemment les clients, parce que certaines personnes qui veulent juste les deals, il y a d'autres personnes qui veulent savoir chez Simons, là, toutes les nouvelles collections quand ils viennent. Il y a des gens qui veulent recevoir des choses pour hommes, et il y a des gens qui veulent recevoir des choses pour femmes. Donc, commencez à organiser le type de contenu. Ici, évidemment, ça fait du sens.
Segmenter la liste, c'est-à-dire aller dans le logiciel de email marketing et puis dire j'ai une liste qui va recevoir les coupons, j'ai une liste qui va recevoir les infolettres, ainsi de suite. Comme ça, les gens, s'ils veulent se désabonner, ben s'ils veulent juste garder les deals, ben ils vont pouvoir garder les deals puis se désabonner des autres. Comme ça, c'est une manière de rétention.
Exactement. Et là, je veux juste corriger une petite chose parce que ça, c'est...
Dis-moi,
tu es l'expert. Pour moi, c'est ultra important. Il ne faut pas avoir des listes séparées. Le plus important, c'est d'avoir une liste qui est elle-même segmentée en petits groupes. Donc, si jamais tu veux envoyer à tout le monde, tu peux choisir ta liste, tu l'envoies à tout le monde. Et si tu veux envoyer aux femmes chez Simons, par exemple, mais là, tu cliques la liste. Et là, tu choisis ton segment. Et là, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, évidemment, c'est pour la permission. La plupart des outils, si tu as plusieurs listes, tu as plusieurs formulaires sur ton site web. C'est ça que ça veut dire habituellement, là. Donc okay. Là, toi, tu es allé t'inscrire au magasin. Et là, ils te donnent les promotions. Puis là, tu es allé t'inscrire sur le site web, sur le formulaire. Et ils vont te mettre dans la liste de, je sais pas, pour femmes. Vêtements pour femmes. Donc là, si moi, je reçois plusieurs courriels, plusieurs courriels de collections, puis là, moi, ça m'intéresse pas finalement, les collections. Moi, je veux juste les deals, là. Je vais me désinscrire de la liste de vêtements pour femmes, mais mon courriel va être encore actif dans l'autre liste. Et là, Simons va m'envoyer un courriel promotionnel avec toutes leurs deals. Moi, je vais dire, « Hey, je me suis désinscrit de votre entreprise. Qu'est-ce que tu fais à m'envoyer des courriels? » Et ça, c'est pas nécessairement la faute de Simons, parce que leur liste était séparée en deux. Et la liste, quand les gens se désinscrivent, ils se désinscrivent d'une liste et ils ne se désinscrivent pas d'une entreprise pour la plupart des systèmes. Donc, ça, c'est quelque chose que Cakemail a vraiment fait qui était un peu difficile à faire accepter aux clients parce que les gens ont l'impression que c'est mieux organisé. Mais en termes de permission, en termes de pas faire d'erreur, si par exemple, si c'est pas en termes de permission, si tu envoies en premier le courriel pour vêtements pour femmes, puis mon courriel, moi, mon entreprise a fermé, mon courriel n'existe plus, le courriel va bounce. Donc là, sur la liste, cette liste-là, si constant envoyer des courriels de vêtements, le système va les arrêter, il va pas m'envoyer un courriel vu que mon courriel n'existe plus. Mais là, tu vas dans l'autre liste, là, tu t'attends d'envoyer une promotion, mon courriel est encore actif dans cette liste-là, MailChimp, Cakemail envoie le courriel. Dans cette liste-là, j'avais pas eu de bounce. Donc, mon courriel est encore actif dans cette liste-là. Et là, ton nom de domaine et ton système vont m'envoyer un deuxième courriel, même s'il sait que mon courriel n'existe pas. Et là, il va bouncer, puis là, évidemment, c'est fini après. Et ça affecte votre réputation. Donc, le plus souvent possible, évidemment, il y a certains cas où est-ce que ça fait pas de sens, mais la plupart des gens, il faut garder une liste, puis d'utiliser les outils qui s'appellent groupe ou segment ou préférence. Absolument, ça, c'est l'autre mot qui va être utilisé dans le système pour pouvoir faire cette séparation-là. Donc, c'est pour ça, parfois, plusieurs listes, ça vaut la peine. Mais d'autres fois, comme par exemple, il y a des gens qui ont acheté quoi que ce soit sur le site web. Donc là, vous avez le droit de leur envoyer une facture. Même si oui. Les gens se sont désinscrits, vous avez le droit de leur envoyer une facture. Donc, évidemment. Vous gardez votre liste marketing, puis là, vous avez votre liste qui est plus URM. Vous pouvez communiquer avec ces gens-là, même si ça désinscrive de vos courriels marketing. Donc là, il y a une séparation qui fait du sens. Mais si la séparation est comme femme contre homme ou, je sais pas, pantalon versus chapeau, accessoire, là, ça vaut peut-être plus la peine d'avoir une liste puis d'avoir un forme de tagging ou un champ que vous allez pouvoir segmenter. Si, là, on parle de segmentation. Une chose qui est très, très magique dans tous les outils, celui de Cakemail, on s'entend, j'ai travaillé là-dedans avec oui. Les outils très souvent. Ils ont plusieurs formes de segmentation qui n'est pas seulement selon le profil de la personne, donc son nom, sa fête, ses préférences. Vous pouvez aussi faire des segments qui sont basés sur une action qui a été faite sur le courriel. Si un système d'email marketing est capable de calculer le nombre de clics, si tu as ouvert la campagne, si tu l'as pas ouvert, si tu as ouvert tous les liens, si tu as ouvert un lien ou un lien spécifique, ça vaut la peine de segmenter ces gens-là sur l'action, comme on fait sur Instagram ou sur Facebook. Donc, un exemple comme ça serait, par exemple, Walmart décide d'envoyer un courriel avec des électroménagers. Et là, moi, il y a un frigo que j'aime bien, je le regarde, OK, je l'achète pas. 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, ou je ne sais pas c'est quoi le life cycle des frigos, le frigo commence à être en promotion. Non, pas en termes de combien de temps ça prend avant qu'il y ait une promotion sur aucune idée.
On va dire 3-6 mois.
On va dire 3-6 mois. Donc là, 3-6 mois plus tard, tu peux renvoyer le courriel avec ce frigidaire-là spécifiquement à toute ta liste. Mais qui tu penses qui va vouloir vraiment l'acheter? Plus ou moins sûrement les gens qui ont déjà démontré un intérêt. Donc, pourquoi envoyer un courriel avec plein de produits dedans au lieu d'envoyer un courriel aux gens qui avaient cliqué sur le lien il y a 3 mois, puis de leur envoyer un courriel avec juste l'image du frigo, avec une ligne de sujet qui m'attaque personnellement à moi à aller, peut-être pas m'attaquer, mais c'est personnellement à moi d'aller acheter un frigeur que j'avais peut-être pas l'argent d'aller acheter avant. Là, ça va te ramener beaucoup plus d'argent que de renvoyer, que Walmart vous envoie un courriel
avec mon Dieu, une plénitude. Aujourd'hui, c'est j'ai vécu ceci et puis j'ai pris action à cause des email marketing, justement, real case study de ça qui est arrivé aujourd'hui, que j'ai swipé la carte aujourd'hui dans le fond Steam, qui est une plateforme de distribution de jeux. T'as une wish list, une liste de souhaits, une liste de produits et de jeux que tu veux acheter. Et puis, hier, je pense, ils ont commencé une grosse vente d'été qu'ils font une fois par été. Et puis, j'avais mis un paquet de jeux dans ma wishlist. Et puis, quand ils sont spéciales, je reçois un courriel qui me dit « Hey, ils sont en spécial, va prendre action, va l'acheter maintenant. Ben, c'est un bon deal, là, maintenant. » Ben, exemple, un jeu qui était 60$, je suis comme « Tu sais quoi? Non, ça vaut pas la peine. Not worth it. Ça vaut pas la peine pour moi. » Mais, par exemple, quand celui à 60$ est à 15$, take my money. Oh, yeah. Et puis, c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai reçu un email qui dit comme, hey, ce que t'as mis dans ta wishlist, c'est 70-80% off. Pour exemple, les prochains 24-48 heures, prends action. J'ai tout de suite pris action parce que pour moi, la différence entre 15$ et 60$, elle est énorme. Puis si j'aurais jamais reçu ce courriel-là, je n'aurais jamais pris action. Donc, ils ont fait peut-être une trentaine de dollars avec moi. Imagine ça fois eux autres, ils doivent avoir une liste de emails de millions de personnes, ben de multimillions de personnes. Mm-hmm. Donc, imagine avec un simple email qui renvoie le contenu de la liste de la liste de souhaits avec les rabais, comment c'est un impact énorme sur leurs finances.
Exactement. C'est la segmentation dans les outils, c'est comme parfois ça a l'air un peu compliqué là, mais absolument la façon dont ça fonctionne, c'est comme un diagramme Venn là. Donc tu crées une règle, tu dis tous les gens qui ont reçu ce courriel-là, qui l'ont ouvert et ont pas cliqué sur le lien, par exemple. Donc, si t'es quelqu'un qui fait des événementiels ou des meet-ups ou quoi que ce soit, t'envoies un courriel. Il y a quelqu'un qui a ouvert le courriel, il y a eu un intérêt. Mais il a pas cliqué sur le lien pour aller s'inscrire. Donc, pourquoi pas aller segmenter ces gens-là et leur envoyer une campagne qui les incite eux. Peut-être ça pourrait même être une question. Le email, les gens pensent que c'est quelque chose que vous pouvez envoyer, puis c'est tout, on attend le prochain courriel. Mais chez les courriels aussi, vous pouvez communiquer avec les gens, vous pouvez demander des gens des questions, des entreprises qui demandent des questions dans le courriel, ils vont recevoir des réponses, puis habituellement, c'est l'équipe de support qui va s'en occuper. Et c'est un super moment d'aller communiquer avec les gens puis de leur faire de la vente. Si t'as un magasin de beauté, et là, tu dis, voici des perruques que je vends ou des... là, j'ai le mot en grec. Des eyelashes.
Des
cils. Non, des cils, des cils.
Excuse-moi. Même moi, je parle mon français.
Tu connais des magasins qui vendent des sourcils, c'est bon? Ben, quoi que oui, c'est comme de la poudre avec des poils artificiels.
Is there something I don't know? Donc là, donc c'est un magasin de beauté comme ça, en demandant aux gens, est-ce que vous avez des questions, comme par exemple des perruques ou des fossiles, parfois c'est compliqué à mettre ou tu sais pas la qualité, demandez aux gens de vous répondre à votre campagne. Là, c'est un moment opportun, vous avez besoin d'une équipe de support pour répondre. Si quelqu'un vous envoie un courriel sur un formulaire sur votre site web, c'est littéralement la même chose. En plus, vous lui avez rendu la vie facile, il n'a pas eu besoin d'aller sur votre site web, il a pu répondre directement à votre courriel. Il veut commencer une conversation puis continuer cette vente-là. Vous pensez pas que cette personne-là a plus tendance à acheter quelque chose que les 55 magasins comme Sephora qui ont vraiment des gens qui font du marketing correctement, qui vont vendre des produits? Vous, comme une petite boutique à Montréal qui vend des produits de beauté, ouvrez la conversation. Les gens peuvent cliquer sur « reply ». C'est pas un courriel, puis là, la communication, on l'arrête sur Instagram, les gens vont faire des commentaires et tout. La même chose en courriel.
Je trouve ça plate, ceux qui font du marketing par courriel avec des « donut reply ».
C'est pas bon pour la réputation.
Mais non,
ben oui,
c'est ça.
C'est plante. C'est le côté courriel, les médias sociaux, non, puis on s'entend aller googler ça. Le courriel était une forme, c'était la première et unique forme de médias sociaux au début, là, une façon d'interagir, de communiquer avec les gens. Puis honnêtement, c'est pas prêt à partir. C'est un identifiant unique. Tu peux pas vraiment fonctionner sur l'Internet sans un courriel. Tu peux pas créer de compte nulle part. Tu peux rien faire. Même des boîtes de courriel qui sont que tu peux comme recycler, c'est quand même un courriel. Ça.
Non, donc, ben c'est ça. C'est
inquiétez-vous pas, ça sera encore là dans quelques années. Le moment que les courriels seront pas là, je vais vous laisser savoir une quelques années avant parce que je vais devoir changer de carrière. Inquiétez-vous pas.
Non, j'ai vraiment aucun stress.
There to stay.
Tu sais, par le commitment que le client a à faire en s'authentifiant et puis vraiment en étant explicite à propos du fait qu'il veut être là, c'est la forme d'email qui vaut le plus cher, de marketing qui vaut le plus cher par leads. C'est vraiment un gâchis pour une entreprise de ne pas le faire. Puis je pense que c'est là encore plus de mal le faire parce que quand tu le fais mal, tu vas à reculons justement pour bien le faire et puis tu perds plus que tu gagnes. Donc, c'est important de le faire, c'est important d'étudier tout ce que tu viens d'expliquer aujourd'hui dans le but justement de créer des bons emails et puis qui fonctionnent, qui rapportent des ventes. Et puis ça, les gens ont aucune idée que ce niveau de détail-là, puis de profondeur-là, la plupart des gens, ils pensent qu'ils s'inscrivent sur MailChimp, qu'ils cliquent simplement sur New Email, puis que ça commence là. L'autre partie des gens, ils savent qu'ils doivent le faire, mais ils n'ont pas nécessairement le budget pour bien le faire, mais il y a des outils qui existent. Même toi, je pense que tu as développé un outil qui permet de faire sûr que notre contenu d'email marketing est bon, tandis qu'on est encore dans le contenu. Parle-moi de ça un peu, justement, toi qui vérifies le courriel des gens, je sais que c'est un service que tu offres. Parle-moi de ça un peu.
Oui. Donc, en ce moment, j'aime aider. Je veux créer un site web parce que les gens vont pouvoir aller regarder une librairie de courriels avec des points. Qu'est-ce qui peut être changé? Qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner? Que ce soit de côté design, côté livrabilité, côté contenu, évidemment. Ouais. Donc, le but, c'est d'aider les gens. Évidemment, en ce moment, je suis en train de le faire gratuitement en échange d'une donation à votre organisation préférée. Et je vais vous donner des points. Donc, certaines choses sont très, très simples. Je vais vous donner des exemples. Il y a des gens qui envoient des campagnes avec 5 colonnes. On s'entend sur mobile, tes 5 colonnes, là. Prends un Excel, remplis ça de contenu, okay. Puis squeeze.
Attends,
ça tout ensemble.
Résumé. Oui. Il y a les gens, les individus et les entreprises peuvent bénéficier d'informations, de consultations de toi en échange d'une donation à leur organisme préféré.
Oui.
Consultation qui vaudrait facilement 150 à 300 $ de l'heure normalement. That's oui, a no-brainer. Exactement. Quelqu'un qui se pose des questions sur l'email marketing, je veux dire, c'est comme, moi, je sauterais là-dessus, puis justement, tu sais, comme je t'appelle, puis je dis comme, wow, I wish d'avoir plus de travail d'email marketing, justement, pour travailler sur cette base-là à faire pour moi, parce que vraiment, c'est un offre qui vaut la peine vraiment beaucoup.
Puis vous
dans
me connaissez,
le sens où,
oui. J'arrête pas de parler, j'arrête pas d'aider, je dis que je vais faire des choses gratuitement. Mes parents me disent « Qu'est-ce que tu fais là gratuitement à travailler de même? » J'aime parler de courriel, puis honnêtement, si je suis capable de faire une différence dans une campagne, puis la personne réalise à quel point un bon courriel avec une bonne stratégie peut lui ramener de l'argent ou un retour, quoi que ce soit, là, que ce soit des clients, que ce soit des appels ou quoi que ce soit, les gens ont commencé à donner plus attention. Moi, mon tagline dans mon entreprise, c'est « Saving the world one email at a time ». Parce que le moment que tu comprends le pouvoir qu'un courriel peut avoir, ça révolutionne tout. Les gens commencent à réaliser. J'ai eu beaucoup de clients qui ont fait comme le switch. Ils mettaient tout leur argent dans Instagram. Puis là, ils ont décidé, peut-être le budget devrait être séparé vers le côté courriel aussi. Parce que ça permet de rentrer chez les gens directement.
Mais tu sais, un travail avec l'autre, tu sais, je pense que juste d'être focusé sur une plateforme puis venir fou avec ça, ça fonctionne pas. Dans le sens où est-ce que... Tu veux générer des leads avec Instagram, oui, mais les leads, à un certain point dans le processus, ils doivent s'inscrire à ta liste de courriels. Après, tu fais une continuation sur ta liste de courriels qui les envoie sur ton site web, qui les
exactement.
Envoie shopper chez toi. Et puis, quand ils ont fini de shopper, tu les envoies retourner sur ton Instagram. Ton Instagram qui les retourne dans un autre cycle d'acheter chez toi. Et puis, ça doit être constant. Et puis, que ce soit des Google Ads, des Facebook Ads, du Instagram Ads, maintenant TikTok qui s'en vient de plus en plus populaire, que sensé et logique d'avoir un parcours qui est fluide et puis linéaire plutôt que de marteler juste un média. Et puis, moi, qu'est-ce que je dis aux gens, justement, s'ils sont vraiment sur un budget extrêmement strict, c'est de se servir des médias sociaux comme Facebook, Instagram pour aller chercher des eyeballs, des paires de yeux sur leur marque, mais ensuite de se servir du courriel pour vendre. Jab, 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 right hook.
Encore une fois, Gary V.
Mais c'est ça. Donc, c'est honnêtement, la plupart des choses, c'est très logique. Le but, c'est que ces choses-là travaillent ensemble et non pas séparément.
Mais c'est tellement logique. Ça donne tellement de sens. Puis, c'est tellement souvent des clients passent à côté de réflexions logiques parce que soit ils essaient d'aller chercher trop loin ou soit parce qu'ils sont énervés, ils sont sur le stress, ils veulent faire des ventes, ils entendent de l'information partout à gauche, à droite et puis ils essaient
faire
de faire.
$1 million.
Oh, oui, non, c'est ça.
Ça prend du temps, il n'y a rien de facile.
Puis ça vaut la peine de... Et puis, bizarrement, c'est très souvent difficile d'avoir cette rencontre-là, d'avoir ce meeting-là avec une équipe au complet où est-ce qu'on dit on s'enligne sur une stratégie multicanaux parce que c'est la bonne chose à faire. Donc, plutôt que de mettre des milliers de dollars dans le vide, on va prendre le temps de prendre quelques heures même quelques minutes pour en discuter, voir clair, et puis voir le trajet du client qui va passer de « je suis curieux parce que j'ai vu une publicité Instagram » à « je visite le site » à « oh, c'est un offre irrésistible pour que je puisse m'inscrire dans la liste de courriels, que ce soit un e-book gratuit, que ce soit un promo code, un rabais, que ce soit un statut XYZ, un incitatif pour s'inscrire à la liste de courriels. Et puis après, une fois qu'il est dans la liste de courriels, le contacter au bon moment, avec les bons mots, pour lui faire prendre action. Et puis après ça, avoir un suivi constant sur ces actions-là à travers Google, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest.
Ouais, Pinterest.
Constamment. C'est tout. Ça semble extrêmement compliqué. Puis c'est vrai que ça peut être extrêmement compliqué de bâtir l'entièreté du funnel, bâtir l'entonnoir, puis le chemin du début à la fin. Puis quand tu vas dans les macros et les micros, oui, c'est compliqué, mais ça vaut la peine de prendre le peu de temps que ça prend pour faire le big picture de qu'est-ce que tu veux faire, puis arriver à des résultats. Puis le email marketing et le marteau si le reste des autres médias sont le clou. Ou le contraire. Oui. Un est essentiel à l'autre.
Vous avez aucune idée combien de fois j'ai vu des courriels. Puis elles sont comme, j'envoie des courriels, ça sert à rien. Puis là, je me dis, OK, ben, je vais les regarder. Je vais les regarder. Envoie-moi des exemples de courriels que tu envoies aux clients. Aucun lien qui redirige vers les médias sociaux ou un site web. Rien. C'est comme acheter, promotion. OK, mais où? C'est quoi le site web? Vous envoyez un Gmail en plus, là. Donc, je sais aucunement ce que le nom de domaine. C'est, puis l'autre chose, regardez vos statistiques. À chaque fois que vous envoyez une campagne, les gens vous regardent, ils regardent souvent les open rate, les clics et les open, mais ils vont pas regarder combien de gens qui ont ouvert le lien spécifiquement. Donc là, si tu vois que tu envoies à 100 personnes, il y a 20 personnes qui ont cliqué sur le lien, il y a aucun achat qui a été fait de l'autre côté ou l'action que vous avez voulu. Est-ce que c'est quoi le problème? Est-ce que c'est vous avez redirigé les gens à la mauvaise place? Est-ce que peut-être la page est tombée, il y avait un design complètement différent de votre branding ou vice-versa, là, on s'entend, le site web est plus beau que l'email est plus beau que le site web.
Exact.
Est-ce okay. que c'est pas facile à acheter des choses sur votre site web? Est-ce que le lien était cassé? Il y a plein de choses que vous pouvez vous demander. Et est-ce que, par exemple, les gens, c'est des gens qui sont sur leur téléphone quand ils vont acheter? Et là, sur version Merci mobile, là. Le shopping cart, il est pas super sexy, c'est difficile à utiliser. Sur est-ce que c'est ça le problème? Ouais. Right? Donc, c'est super important de se poser des questions. Un, il faut diriger les gens vers quelque part. Vous leur demandez, vous leur envoyez un courriel avec un but et de la valeur vers le client, pas de la valeur vers vous.
Nous, mais tellement souvent, les entreprises ont tellement peur de perdre, ils ont tellement peur là, d'envoyer un email puis qu'il n'y ait pas de vente. Et puis, ils se disent, faut marteler de prendre action. Faut marteler. Puis le début, c'est comme, deal, chose. 20% off. Buy now. Achetez maintenant, vite tout de suite. 24 hours left. Go. Tu sais, c'est ridicule.
Moi, j'ai jamais compris ça parce que, est-ce que toi, t'aimes ça?
Je déteste ça. Ils me font chier. Qui aime ça? Je fais delete tout de suite. Oui, mais les gens, dans la vieille mentalité, c'est je dois leur dire qu'il y a un deal, puis ils vont acheter, mais c'est plus comme ça que ça fonctionne. Moi, la manière que j'ai envie de me faire parler, c'est de me faire envoyer un email qui va me dire les 10 comment qu'on dit drawback en français? Les 10 désavantages d'être toute mouillée sous la pluie. Puis là, je vais faire comme oh, c'est vraiment dommage. Puis après d'être targeté par les 10 avantages d'utiliser un parapluie. Et puis, c'est après ça, me faire targeter par est-ce que vous connaissez ce super smart parapluie qui se connecte à votre téléphone puis qui vous dit la météo? Puis là, je fais oh, that's interesting parce que maintenant, je sais que c'est vraiment désagréable d'être toute mouillée dehors sous la pluie. Je le sais que le parapluie est vraiment intéressant pour me protéger de la pluie. Et puis, en plus, il y a un gadget cool qui me permet de le connecter à mon téléphone. Dans le processus, là, je commence à être vraiment intéressé. Ça me trotte dans la tête. 2-3 jours plus tard, quand je fais tu sais quoi, je suis vraiment intéressé. Et puis qu'en plus, je me fais envoyer un email qui dit « Saviez-vous qu'il annonce de la pluie demain? Pour cette raison-là, 60% off sur notre smart parapluie. » Oh! I'm a buyer! J'achète maintenant parce que j'ai le besoin. J'ai le produit que je sais que ça me prend pour combler ce besoin-là. Je suis en hésitation. on me donne des bons arguments, on fait un suivi qui est valuable, qu'on me donne des infos importantes pour prendre ma décision. Et puis finalement, ben, il m'aide à prendre cette décision-là en me donnant le deal où est-ce que je suis financièrement à l'aise, puis moralement à l'aise à le faire. Et puis en plus de ça, il me renforcit cette décision-là en me disant qu'il va pleuvoir demain, puis qu'ils peuvent le shipper pour demain matin devant ma porte. What's up? Si les marques comprendraient ce processus-là du début à la fin, il y aurait des marques qui feraient beaucoup d'argent, parce que qu'est-ce que je vois dans qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des marques qui ont un potentiel énorme, mais complètement inexploité parce qu'ils sont dirigés par des gens bornés qui ont une vieille mentalité et puis qui veulent pas s'adapter aux manières de faire aujourd'hui.
Exactement. Puis juste pour pas faire peur à personne, toutes les choses que Simon vient de dire, c'est pas des choses qui sont super compliquées où est-ce que là tu dois sortir tes clients, faire un Excel. Tous les systèmes le font automatiquement. Ça prend plus de temps à retrouver votre mot de passe que d'aller faire un segment qui dit, tu cliques « Create a segment », tu cliques « Règle numéro 1 », tu dis « Reçu la campagne ». Tu choisis ta campagne, a cliqué sur tel lien. Tu choisis ton lien et tu fais « Save ». Et la campagne peut être envoyée automatiquement à ces gens-là. C'est tout. De pouvoir retargeter des gens, les gens, honnêtement, le marché, aller regarder en ligne, là, c'est pas nous qui inventons cette information-là. Les gens s'attendent de plus en plus à recevoir du marketing qui est personnalisé. Alors, puis si les gens reçoivent en ce moment un courriel qui est comme un peu généraliste, les gens, ils sont souvent, là, vous devez le voir, vous l'avez vu dans les memes ou vous l'avez vu sur Twitter ou quoi que ce soit, les gens, ils vont call out ces compagnies-là, vont dire « Hey, moi, je suis une femme, puis tu m'envoies des vêtements d'hommes, c'est quoi le problème? Tous mes produits que j'achète, c'est des vrai. Produits de femmes. Au magasin, c'est des produits de femmes. Les annonces que je regarde, c'est des produits de femmes. Les courriels que j'ouvre, c'est des produits de femmes. Les photos que je like sur Instagram, c'est des produits de femmes. Plus, m'envoie un courriel avec des pantalons pour hommes. C'est pas la fête des pères. Il n'y a pas une raison spécifique. Tu fais juste m'envoyer à tout le monde la même chose. Je suis pas spéciale pour toi. Donc, les gens s'attendent en plus d'être personne de faire ça très personnalisé et dire « Salut Yanatori » dans un courriel, c'est pas personnalisé, spécialement moi, je sais que c'est fait automatiquement par un système, les merge fields. Il faut que si vous voulez que j'ouvre votre courriel, par-dessus toutes les autres milliers de courriels que je reçois par jour, il faut qu'il y ait de la valeur pour moi. S'il y a de la valeur pour moi, plus tard dans mon life cycle, je vais venir acheter, je vais venir communiquer avec vous, je vais revenir dans votre magasin. Si vous m'envoyez de la merde tout le temps, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas quelque chose de nécessaire.
Les marques à qui je donne mon argent, là, vraiment, puis tu sais, je repense à ça maintenant qu'on y parle, puis je pense, Josiane, tu vas être d'accord avec ça.
Oui.
Les marques à qui je donne mon argent, puis on en parle souvent, Josiane, de ça, c'est les marques qui me font sentir bien. C'est les marques que je fais « Ah, ils sont donc ben nice, eux. Ah, c'est cool, eux. » Puis où est-ce que tu crées un sentiment de proximité avec cette marque-là? Et puis que cette marque-là, avant même que tu aies fait affaire avec toi, fait partie de ta vie parce qu'elle te donne de la valeur à travers ses communications, que ce soit par email ou par les médias sociaux.
Exactement.
C'est super important. On s'attend à ça. Pourquoi est-ce que vous pensez que vos clients ne s'attendent pas de même de votre part? Je n'ai jamais compris cet argument-là. Puis c'est super facile à faire. Les outils le font, la segmentation pour vous. Tant que vous avez votre idée en tête ou quelqu'un que vous voulez, un produit que vous voulez vendre, vous savez à qui va se vendre le produit. Si c'est la fête des mères, là, on va attaquer les hommes, tu sais. Mais sinon...
c'était tellement drôle, cette conte-là. Si c'est la fête des mères, on va attaquer les hommes.
Ben oui. Non, mais tu sais, un toe ring, là, ouais. On s'entend, les hommes s'en foutent un peu pas mal des bagues vrai. Pour vos orteils, là.
Allô, c'est vrai.
Exactement.
C'est vrai.
C'est vrai. L'outil fait automatiquement.
Exactement. Puis les outils s'en viennent de plus en plus, de plus en plus modernes, de plus en plus customisables. Tout s'en vient de plus en plus facile. Donc, faites-les bien. Si vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce que vous faites, appelez-nous, appelez Yana, et puis on va vous mettre sur le droit chemin. C'est hyper important. Et puis, ça coûte pas nécessairement une fortune de bien faire les choses. Par exemple, ça vaut la peine de bien le faire au moins une fois. Surtout, il y a des marques que je vois dépenser sans bon sens encore dans du marketing traditionnel, genre des milliers de dollars en n'importe quoi. Ou des milliers de dollars dans des stratégies de marketing hyper génériques et en canne, quand ça leur coûterait qu'est-ce qu'ils dépensent en une semaine pour bien faire les choses une fois, et puis après ça, ce serait juste de rinse and repeat, mais cette fois-là, ils feraient les choses de la bonne manière.
Ah oui, c'est très logique, honnêtement.
Fait que toi, disons, mot de la fin, comment les gens commencent à bien faire les choses au niveau email marketing à partir de demain matin? Et puis s'ils se disent par où je commence, je sais pas, comment qu'ils font pour te rejoindre justement à travers l'initiative que t'as pour aider les gens avec leur email marketing?
Ah oui, le site web s'appelle reviewmyemails.com. Si vous googlez mon nom, vous pouvez retrouver moi et tout le reste de ma vie. J'ai un nom très unique, donc vous pouvez retrouver tout sur LinkedIn. Envoyez-moi un message si jamais il y a des questions spécifiques. Je suis pas là pour charger les gens qui ont des questions et qui veulent faire les choses eux-mêmes. Je suis là pour les guider. J'ai un meet-up aussi, j'ai des webinaires que je fais et le but, c'est vraiment ça, d'aider et de sauver le monde un courriel à la fois. je l'ai traduit vite, hein?
Ouais, c'est
puis,
super.
Puis un truc que j'ai, que je fais très souvent avec les gens quand ils sont pas trop certains si le courriel, ça vaut la peine ou pas, choisissez un but, OK? Écrivez-le sur un petit papier, puis là, prenez un courriel et le courriel que vous allez designer, puis le tout beau, toute l'information et tout, et là, montrez-le à quelqu'un et donnez-lui 5 secondes de le regarder et retirez-le. Et là, vous lui demandez qu'est-ce que vous pensez que le courriel, c'est quoi le but du courriel, puis qu'est-ce que tu penses que moi, j'aimerais que tu fasses après avec ce courriel-là? Est-ce que c'est aller au site web, dans les médias sociaux, me répondre, m'appeler, qu'est-ce que tu penses? Et là, est-ce que la personne dit est pareil sur qu'est-ce qui est sur votre petit papier? Si c'est pas pareil, votre courriel est trop long ou vous parlez de 1000 choses au lieu de votre but. C'est un test très, très, très facile. Vous créez votre campagne, vous écrivez évidemment dans votre tête, vous gardez dans votre tête ce que vous voulez faire avec ce courriel-là, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous rapporter? Et là, montrez-le à quelqu'un qui sait aucunement vous êtes qui. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce courriel-là? Si la personne n'est pas capable de répondre correctement, mais j'ai aucune idée de quoi tu parles dans le courriel, si c'est un événement, si c'est un produit, si c'est je sais pas.
Oh, ça coupe.
Ben là, il y a un problème. Ça vous permet d'aller faire la révision. Ah ouais. Non, salut.
Non, mais t'es resté à couper 3 secondes, mais c'est bon, t'es revenu.
Oui, ça, c'est comme un petit 2 secondes.
Super. Ah, non. Génial, ben vraiment content de t'avoir parlé, c'était vraiment cool. Oui. Personnellement, moi je serais super partant pour te revoir sur le podcast une autre fois, parce que je pense que de sujets intéressants comme ça, on peut en jaser pendant des heures et des heures. Ça fait 1h30 qu'on est là et ce fut extrêmement, extrêmement, et puis je vais prendre le terme que j'ai beaucoup utilisé pendant ce podcast-là, extrêmement « valuable ». Ça a donné beaucoup de valeur. Je trouve le mot plus puissant en anglais. Désolé aux grands défenseurs ardents de la langue française, but that was really valuable. C'était valuable. C'était valuable.
Précieux en français, c'est pas super. C'est pas la même chose.
Oh! Moi, j'aime ça.
C'est spécial.
Donc, super, ça fait le tour. Vraiment, merci d'avoir été avec nous. Josiane, je te laisse terminer. T'as pas beaucoup parlé.
C'est vraiment intéressant et tout. Écoutez, Eliana, une expertise.
Presque 10 ans dans l'email marketing sur LinkedIn que j'ai vu. Pas exactement 10 ans, mais presque en tout et partout.
Yana a pu nous permettre justement de...
C'est vrai que c'est facile d'écrire les emails, c'est tout ce qui va autour pour faire sûr qu'ils se rendent bien et puis qu'ils se rendent sur une bonne forme, qu'ils vont bien sortir partout, parce que c'est pas juste d'envoyer un JPEG dans les courriels, et puis faut que tu prennes en compte, puis ça c'est quelque chose qu'on a déjà parlé, Yana, dans une autre discussion, faut que tu prennes en compte que Gmail, Outlook, Yahoo, ils utilisent tous des logiciels différents d'une manière interne pour lire les courriels. Ils l'interprètent de manière différente. Et puis, c'est une des raisons pourquoi que faut être efficace, mais minimaliste, entre autres. Il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Donc, quand vous démarrez vos campagnes d'email marketing, faites-les comme il faut. Parler à un expert pour faire sûr que les choses sont bien faites, au moins la première fois, pour partir sur des bonnes bases. Oui. Donc, merci d'avoir été avec nous, Josiane.
Merci, Yana.
Ah, merci de m'avoir... je cherche les mots, évidemment. Mais merci. À la prochaine.
Oui. Yes. Une prochaine fois pour ça. Non, sérieusement, une prochaine fois pour ça, ce serait vraiment intéressant d'avoir une partie numéro 2, de parler de email marketing pour les plus grandes entreprises, de parler d'email marketing plus en détail pour les petites entreprises. Tu sais,
on pourrait aussi trouver une librairie de courriels de mon côté, puis de les analyser ensemble. Ouais. Comme ça, les gens vont regarder exactement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas dans les courriels, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser évidemment l'engagement, puis le return on investment, le ROI.
Excellent. Ouais, peut-être même une vidéo YouTube sur la chaîne YouTube de Josiane, ça pourrait être intéressant. Wi-Fi Café Ambition, de parler de ça.
Exactement. Parce que t'as le faire en Zoom, quelque chose comme ça.
Ben ouais, partager
bien sûr.
Pour partager l'image. Anyway, il y a vraiment plein d'idées, plein de trucs super cool qu'on peut faire. Et puis vraiment, c'est toujours le fun de discuter avec toi, mais aussi de travailler avec toi. Honnêtement, en ce moment, je souhaite qu'un client vienne nous demander pour une méga grosse campagne d'email marketing pour connecter à ces différents canaux de marketing, parce que c'est le fun de travailler avec toi. Fait que normalement, ça ferait vraiment une affaire, un gros projet, mais où est-ce qu'on connecte une stratégie d'email marketing complexe, là, ce serait vraiment nice.
Donc,
entreprise avec un chiffre d'affaires minimum de 5 millions qui peut investir 60 000 $ dans son infrastructure marketing sur 3 à 6 mois, on est partant. Là, pour vrai, ça, c'est vraiment notre client type, justement.
Ouais.
On aime travailler avec eux, puis c'est les clients qui ont le plus gros résultat chez nous, c'est justement les plus grandes PME ou les petites grosses entreprises. Ça se dit-tu?
Ah, parfait.
Les petites grosses entreprises.
Non, les moyennes grandes.
Les moyennes grandes entreprises.
C'est les PME, qui sont les petites entreprises. Les petites moyennes.
T'as les TPME.
Oui, PME, c'est ça?
Oui, mais t'as les TPME. Oui. Les très petites.
Oui, oui, mais ça...
TPE.
C'est un autre...
T'as les travailleurs autonomes.
Oui.
Là, on divague là, en français. Ouais.
C'est dur.
J'aime bien là, ça. On se demande toutes les mêmes questions.
Ouais, exactement. Super. Fait que, super. Génial. Merci, Anna, d'avoir été avec nous. Je te souhaite
une
super bonne fin de journée. Reviens super. Bientôt
Donc,
sur le podcast.
On se revoit bien pour une sûr, prochaine merci. Épisode de Wi-Fi Café Ambition.
Ciao.
Parfait. Ciao. Merci.